Bonjour, bonjour les amis, c'est les bienvenus. On est en train de s'installer. Je suis pas en retard, regardez, je suis pile à l'heure. Mais... Il est 5h55, je suis là, prête à prendre ma place. Voilà, mais... à me positionner, à vous accompagner jusqu'à 9h.
C'est magnifique, ça, donc, bon, ça brille et tout. C'est...
On Alors, mais pourquoi ça brille super. Parce que vous savez qu'il se passe quelque chose quand même ce soir. Ce soir, en fait, les 20 ans de BFM TV.
C'est vrai.
Grosse soirée en perspective à partir de 21h sur l'antenne. Nous, on fera l'after demain matin.
Ouais. On fera un petit after demain matin. On sera peut-être en train de dormir à cette heure-là. J'en profite juste une petite seconde. Si vous étiez avec nous hier, on a rendu hommage au chanteur des Forbans, vous savez, qui était décédé à cette occasion-là. Emmanuel Le Chypre nous a expliqué qu'il portait la banane quand il était petit. On a la photo d'Emmanuel Le Chypre.
Vous savez quoi ? C'était exactement ça, mais sans la barbe.
Avec la veste en cuir, parfait. La petite boule d'oreille.
Est-ce qu'il y a une possibilité, Manu, qu'il y a une possibilité technique de refaire pousser la banane ou non, ou c'est fini?
Alors écoute, je crois que la semaine dernière, Aurel nous a présenté un dispositif révolutionnaire.
Un casque pour faire pousser les cheveux. Ouais.
Je suis prêt à l'essayer.
Et dans quelques mois, la banane.
Allez, on y croit.
Allez, l'actualité de ce jeudi matin, c'est aussi cette fusillade sur laquelle on va revenir dans un instant. Fusillade qui a eu lieu cette nuit à Washington, juste à côté de la Maison Blanche. On a des informations sur nombre de victimes et sur le suspect qui serait de nationalité afghane. On vous dira tout dès le début du journal de 6h.
Mais d'abord, un coup d'œil à la météo pour aujourd'hui, pour demain, pour ce week-end aussi avec Camille.
Vos factures de chauffage augmentent, la météo avec Fleuron Industrie, grossiste en isolation thermique extérieure pour les particuliers. Fleuronindustrie.com.
La météo avec My Variation, des brosses à dents à technologie Sonic recommandées par les dentistes, disponibles en pharmacie et sur myvariation.com.
La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous ? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe.
Je me disais bien ce matin, enfin cette nuit en sortant, c'est pas qu'une impression, les températures elles ont baissé.
Oui, ça baisse et ça gèle hein, aussi du sud-ouest au nord-est de la France. Il va falloir gratter ce matin en se préparant à aller au travail, bon courage à vous. Et jusque dans l'arrière-pays méditerranéen, on a moins de 2 degrés en ce moment à Aix-en-Provence, chez vous, dans l'intérieur des Bouches-du-Rhône, avec un ciel qui sera par contre très dégagé tout au long de la journée. Vous le verrez sur la carte de l'après-midi dans un instant. Par contre, prudence, risque de phénomène verglaçant ce matin dans le nord-est. On a eu beaucoup d'humidité ces derniers jours, alors sous forme de pluie essentiellement en plaine, mais aussi de neige en montagne. Avec les gelées généralisées, évidemment, ça va glacer, hein, ça va geler. Donc attention aux glissades, notamment sur le réseau secondaire. Toujours quelques flocons pour le massif central et surtout en Corse. 10 à 20 cm possible tout au long de la journée, hein, à partir de 1000 mètres d'altitude, donc méfiance sur les routes de montagne, hein, qui vont très vite blanchir, et c'est déjà le cas d'ailleurs en ce moment. À l'arrière, perturbation qui reste bloquée avec ce flux de nord-est, elle n'ira pas plus loin, mais elle apportera encore quelques pluies cet après-midi vers le bassin parisien en redescendant vers la région de Poitiers ou encore de Niort, où ça gèle actuellement. Les températures, donc 0 degré dans le centre-ville d'Auxerre, on a du moins 2 degrés généralisés dans les grands centres urbains, hein, du nord-est de la France, moins 3 pour Aurillac, et cet après-midi, ça remonte évidemment à la faveur de la journée et du soleil en Méditerranée, 16 degrés entre Corse et continent. Il fera 8 en Seine-Maritime, 13 degrés pour Cherbourg. Perrine demandait les prévisions pour la suite de la semaine. Eh bien, les voici. Avec donc toujours cette circulation perturbée sur le territoire, des périodes de beau temps, on va dire plutôt d'éclaircies, et puis des périodes de pluie et de vent pour le week-end. Ce sera un petit peu mieux dimanche. Puis bonne nouvelle pour ceux qui partent déjà en direction des pistes de ski. La neige est de nouveau annoncée.
Vos factures de chauffage augmentent ? C'était la météo avec Fleuron Industrie, grossiste en isolation thermique extérieure pour les particuliers. Fleuronindustrie.com.
C'était la météo avec My Variation, des brosses à dents à technologie Sonic recommandées par les dentistes, disponibles en pharmacie et sur myvariation.com.
C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ?
Il est bientôt 6h, merci de démarrer la journée avec BFM Première. À la une ce matin, cette fusillade aux États-Unis à Washington, tout près de la Maison Blanche, un homme de nationalité afghane a ouvert le feu il y a quelques heures sur 2 membres de la garde nationale en patrouille. Les toutes dernières informations dès le début de ce journal.
Et 10 mois d'engagement ouvert à tous dès 18 ans, Emmanuel Macron présentera en fin de matinée les contours du nouveau service militaire. Il sera volontaire. Cette fois, l'armée de terre espère recruter 10 000 jeunes l'an prochain.
La cocaïne était cachée sous les courgettes. C'est une saisie étonnante à laquelle ont procédé les douaniers de Marseille. Marchandises estimées à 4 millions d'euros. Les Restos du Cœur ont pu récupérer les cagettes de légumes.
Et puis les Français boivent moins. Oui, mais pas forcément mieux. Si les ventes, notamment de vin, ont reculé l'an dernier, le nombre d'hospitalisations pour des malaises liés à l'alcool, lui, est en hausse.
L'information de la nuit, Perrine, c'est donc cette fusillade à Washington, tout près de la Maison-Blanche.
Un tireur a ouvert le feu sur deux soldats de la garde nationale qui étaient en patrouille. Les deux hommes sont toujours ce matin dans un état critique. Le suspect, lui, a été interpellé. Il est également blessé. Antoine Fernandez.
Seulement quelques minutes après la fusillade, les autorités locales prennent en charge deux militaires de la garde nationale américaine. Les deux hommes sont au sol, victimes de tirs ciblés en plein cœur de Washington et à seulement quelques mètres de la Maison-Blanche. Vers 14h15 heure locale, un homme armé arrive à l'angle d'une rue de la capitale américaine, puis se dirige vers les deux militaires alors en patrouille. Plusieurs coups sont tirés, l'assaillant est rapidement maîtrisé par d'autres gardes nationaux. Dans la nuit, Donald Trump décrit le profil du tireur.
L'animal qui a perpétré cet atroce acte paiera le prix le plus élevé possible. Le suspect en détention est un étranger entré dans notre pays en provenance d'Afghanistan, un véritable enfer sur Terre, en septembre 2021.
Le suspect est un homme de 29 ans. Selon les médias américains, il avait fait une demande d'asile, accordée par l'administration Trump en avril 2025. Les deux militaires touchés sont grièvement blessés, toujours dans un état critique. Ces témoins de la fusillade racontent.
Le membre de la garde nationale avait la tête couverte de sang. Il y avait plein de monde autour de lui et puis on l'a fait monter dans l'ambulance.
Ces derniers mois, c'est sur décision de Donald Trump que les militaires étaient déployés dans la capitale. L'administration du président annonce renforcer leur présence en déployant 500 soldats supplémentaires. Toutes les demandes d'immigration des ressortissants afghans sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.
À l'étranger encore, regardez ces images spectaculaires, images de cet incendie qui ravage depuis plus de 24 heures un immense complexe résidentiel à Hong Kong. Image ce matin en direct, les pompiers sont toujours en train d'essayer de venir à bout des flammes à l'intérieur. La violence du sinistre est telle, Perrine, qu'elle rend difficile l'intervention des pompiers à l'intérieur des bâtiments.
Le bilan, il est lourd, il n'est que provisoire. Au moins 44 morts, il y a plus de 270 résidents qui sont portés disparus. Trois suspects ont été arrêtés, on y reviendra plus en longueur dans le journal de 6h30. Près de 3 Français sur 4 sont favorables au retour d'un service militaire volontaire, je précise bien, c'est ce qui ressort d'un sondage ELA pour BFM TV. Alors qu'Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui en Isère, il devrait en préciser les contours. Dominique, l'Élysée dit vouloir offrir un nouveau cadre aux jeunes pour, je le cite, servir au sein des armées.
Oui, et selon nos informations, regardez, ce service militaire serait ouvert aux jeunes, les jeunes majeurs à partir de 18 ans, aux femmes et aux hommes. 10 mois d'engagement volontaire. Ce serait effectivement la durée de ce nouveau service militaire, rémunéré 950 € par mois et qui permettrait, ça c'est important, aux jeunes étudiants qui s'engagent, de valider jusqu'à 60 crédits. C'est l'équivalent d'une année d'études universitaires. L'objectif de l'Élysée dès l'an prochain, c'est de recruter 10 000 jeunes dans les rangs de l'armée de terre. C'est aujourd'hui le corps qui en a le plus besoin.
Alors qu'en pensent ceux qui ont déjà réalisé leur service militaire, mais le vrai, hein, cette fois-ci, on est allé leur poser la question. Philippine David avec Mylène Argelas.
Eh bien, je suis là.
Franck et Frédéric ont tous les deux effectué leur service militaire à 23 ans.
J'ai toujours ce costume, bien entendu.
C'est vrai ?
Tiens, Frédéric, je vois.
Non !
Bah, bien sûr que si.
Génial !
En voyant ces photos, Franck se souvient de sa première fois avec une arme.
Voilà, on va te donner une arme de guerre. La cible était un soviétique. Parce qu'en fait, l'ennemi était à l'est. La France se préparait à un conflit qui viendrait de l'Est.
Aujourd'hui, 67% des Français jugent improbable une attaque militaire russe en France dans les années à venir. La menace soviétique était à l'époque présente dans la tête de ses deux amis. Frédéric tire, lui, un autre enseignement de cette période.
J'avais passé mon enfance, mes études à Paris, dans le 7e arrondissement, donc dans un milieu bourgeois. Et pour la première fois de ma vie, j'ai une représentation de la société que je ne connaissais pas avant. Avec des pauvres, des riches, des qui n'ont pas fait d'études, des qui ont fait des études.
C'est quelque chose qui permettait de faire nation, c'est-à-dire de vivre ensemble.
Pour Philippe et François, c'était il y a 40 ans.
Moi, je ne regrette pas.
Mais cette année reste gravée dans leur mémoire.
On se rend compte que de souffrir ensemble, d'avoir des contraintes assez fortes, forcément, ça augmente la solidarité.
Je pense que c'est un passage vers l'âge adulte.
73% des Français se disent aujourd'hui favorables à la création d'un service militaire volontaire.
C'est une information BFM TV. Un homme a été tué par balle hier à Marseille en fin d'après-midi. Les faits se sont déroulés près d'un point de deal. La victime, âgée d'une vingtaine d'années, a été touchée à 4 reprises dans le dos. Les auteurs sont actuellement en fuite.
Ce qui nous amène à cette importante saisie de stupéfiants lors d'un contrôle au péage d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône.
Plus de 300 kilos de cannabis et une trentaine de kilos de cocaïne dissimulés dans des cagettes de fruits et légumes. La drogue a été saisie, la marchandise, elle, remise au Resto du Cœur. Boris Karlamov, Cindy Chevaux et Adrien Spiteri.
À l'intérieur de ces sachets, 329 kilos de cannabis et 27 kilos de cocaïne. Des produits stupéfiants saisis lors d'un contrôle au péage d'Arles dans la nuit du 20 au 21 novembre, qui étaient dissimulés dans ces cagettes de fruits et légumes. Un mode opératoire habituel.
C'est pas toujours des fruits et légumes, c'est pas toujours la circulation sur des camionnettes, mais c'est en tout cas un mode de dissimulation auquel la douane est régulièrement confrontée.
Arrêté, le conducteur a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. La nourriture, elle, a été donnée au Resto du Cœur. Montant total de la marchandise illicite interceptée, 4 millions d'euros.
Il y a un enjeu pour la douane, c'est bien sûr déjà d'assécher, mais pas uniquement de saisir de la marchandise, mais derrière, en lien avec la police, en lien avec la gendarmerie, en lien avec les magistrats, d'essayer à chaque fois de remonter le fil pour arrêter des personnes, démanteler des réseaux.
En 2024, la douane française a saisi plus de 110 tonnes de produits stupéfiants, dont 20 tonnes de cocaïne. 92 organisations criminelles ont été démantelées.
On vous parlait en début de semaine de ce rapport rédigé par la droite sénatoriale qui préconisait toute une série de mesures choc pour lutter contre l'islamisme.
Oui, parmi elles, notamment l'interdiction du voile dans l'espace public pour les fillettes de moins de 16 ans. Un rapport que dénoncent aujourd'hui plusieurs associations et responsables du culte musulman. Lassé, explique-t-il, d'être une fois encore pointé du doigt. Écoutez.
Les musulmans vivent dans un climat de suspicion permanent. Ce rapport a été accueilli avec beaucoup de tristesse parce qu'on se rend compte que c'est devenu une espèce de tradition. À chaque fois qu'il y a des échéances électorales qui s'approchent, les musulmans deviennent une espèce de valeur d'ajustement. Il s'agit plutôt de réfléchir avec eux à la manière la plus adéquate et la plus efficace de lutter contre l'islamisme, à savoir que les premiers remparts contre l'islamisme, ce sont les responsables du culte musulman eux-mêmes.
Faut-il y voir, Perrine, faut-il y voir ce matin un pas supplémentaire vers une paix en Ukraine ? Pour la première fois cette nuit, Moscou évoque un processus sérieux pour qualifier les efforts diplomatiques américains, alors que dans le même temps, vous allez le voir, Vladimir Poutine, lui, est en visite, comme si de rien n'était, au Kyrgyzstan.
Oui, exactement. Il a fait une halte culturelle avec cet instrument-là que vous voyez, qui est le kobuz, voilà, espèce de petite guitare. Contraste, en tout cas, effectivement, saisissant par rapport à la réalité du terrain. Ce matin, on vous retrouve en direct de Kiev. Clémence Dipou, après bientôt 4 ans de conflit, cette nuit a encore été marquée par des alertes.
Une alerte dans la région de Dnipro en ce moment même. Une alerte tout à l'heure ici à Kiev, il y a une heure environ. Une nuit un peu plus calme que les précédentes, notamment en début de semaine, lundi soir, quand l'Ukraine a dû essuyer de nombreux tirs de missiles, et notamment sur la petite ville à l'ouest du pays de Ternopil, où il y a eu 33 personnes tuées et notamment des enfants dans un bombardement d'immeubles. Sur le front, la situation n'est guère mieux. Deep State, c'est un groupe d'Ukrainiens experts qui regardent, qui analysent les cartes satellite et qui dit aujourd'hui que la Russie a pris au moins 2 villages, un près de Zaporijja, l'autre près de Pokrovsk, cette ville clé du Donbass, Pokrovsk où il y a des combats intenses en ce moment, même si l'armée ukrainienne dit toujours tenir cette position, mais la ville est de plus en plus encerclée et donc ce sentiment ici en Ukraine que ce plan de paix qui est discuté en ce moment ne pourrait pas aboutir dans les prochains jours parce que ici on se dit que la Russie va essayer d'avoir le maximum de conviction de conditions et cette conviction ici en Ukraine qu'il ne peut pas être accepté un plan de paix à n'importe quelle condition parce que sinon la Russie continuera d'attaquer l'Ukraine comme elle le fait depuis 4 ans.
Merci Clémence Dibou avec Valentin Rivollier et Philippe Dotsenko. On revient en France à présent. On parle de votre santé, la consommation d'alcool qui continue de diminuer en France selon le dernier rapport de l'Observatoire des drogues et des tendances addictives. Les ventes ont baissé de quasiment 6% l'an dernier par rapport à l'année dernière.
Oui, alors une bonne nouvelle en matière de santé, mais qui cache tout de même quelques indicateurs moins rassurants pour le coup, car si les Français, surtout les jeunes, boivent moins d'alcool, eh bien ils le font parfois encore trop souvent de manière excessive. Angie Loata, Olivier Saint-Paul avec Pierre-Olivier Dantan.
Une bière lors d'un apéro entre amis, un verre de vin pour accompagner le repas, des petits plaisirs que ces Français assurent s'octroyer avec modération.
Je bois un petit peu de vin, mais toujours en mangeant, je veux dire dans les traditions.
Le week-end, comme ça, des fois sur semaine, un petit verre de vin.
En France, la consommation d'alcool a nettement diminué ces derniers mois. Près de 6% de baisse en 2024, principalement dû au recul des ventes de vin, mais surtout à une consommation moins régulière chez les jeunes.
Les jeunes sont peut-être plus attirés par ce côté festif. C'est plus pour s'alcooliser, pour être dans un état un peu particulier.
Cette tendance, justement, est pointée dans l'étude. Même s'ils boivent moins, un jeune sur cinq a tout de même connu une alcoolisation importante dans le mois. Un phénomène qui n'étonne pas ce thérapeute en addictologie.
On constate qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment de la bière. Les gens ont tendance à consommer moins de manière raisonnable et ils ont tendance à augmenter le nombre de séquences d'alcoolisation excessive.
68% des jeunes de moins de 16 ans disent avoir déjà expérimenté l'alcool.
Alors qu'Emmanuel Macron devrait annoncer, on en parlait il y a quelques instants, le retour du service militaire à la mi-journée, on vous propose ce matin un détour par le Forum Innovation Défense qui ouvre ses portes à Paris. C'est une sorte de grand supermarché de l'armée.
Où les drones et les robots prennent beaucoup de place. Thomas Hermant a pu s'y rendre dès l'ouverture au public. Alors on va y trouver des armes, des équipements bien sûr. Mais pas que Thomas, car il y a aussi d'autres enjeux comme la santé de nos soldats.
Et pour vous présenter cette innovation ce matin, alors il faut se projeter un peu, mais imaginez-nous au milieu de l'océan où on est difficilement accessible depuis la Terre. Eh bien, nous avons cet ordinateur un petit peu particulier puisqu'il s'agit de l'imagerie embarquée. Bonjour Pascal, vous êtes médecin en chef.
Bonjour, oui.
En fait, là, c'est si jamais moi je suis militaire, je suis dans le bateau,
c'est ça.
Je suis relié avec un médecin directement sur Terre qui peut faire un diagnostic, c'est ça ?
C'est ça, c'est que en fait, vous êtes au milieu de la mer, au milieu de l'océan Indien, de l'océan Pacifique. Il y a un infirmier, ou pas de médecin en tout cas, et peut-être pas d'infirmier, et il y a une urgence abdominale par exemple, et il va falloir examiner ce ventre. Et si la personne ne s'est pas examinée, eh bien l'échographie est un outil d'imagerie qui va permettre de poser un diagnostic, et l'idée c'est de poser ce diagnostic à distance. La prouesse technologique, c'est de coupler de la télémédecine avec de la vidéo, et donc on va avoir de l'imagerie d'échographie sur l'écran de l'expert et de la télémanipulation, c'est-à-dire un ordre moteur qui est donné depuis la Terre et qui est réalisé à distance en mer.
Merci beaucoup Pascal. Voilà une des innovations disponibles ici sur ce salon Porte de Versailles à Paris. Donc une centaine d'innovations au total sont présentées. Donc regardez juste ici, vous avez par exemple des nouvelles tenues des militaires qui sont déployées depuis plusieurs mois. Ou encore si on regarde du côté de la gendarmerie avec de nouveaux gilets pare-balles. C'est ouvert au public ce samedi si jamais vous souhaitez découvrir ces innovations.
Merci Thomas, on retrouvera Thomas Hermant en direct cette fois à partir de 7h30. Deux minutes pour comprendre dans un instant, bah c'est notre armée, on va continuer de parler de notre armée, est réellement la plus efficace d'Europe, c'est ce qu'affirmait hier Emmanuel Macron, alors que le chef de l'État doit annoncer dans la journée le retour du service militaire, on passera en revue les effectifs.
Et puis l'écho Emmanuel, une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent s'équiper d'un véhicule électrique.
Oui, si vous comprenez quelque chose au dispositif.
Bon, vous allez nous expliquer ça, vous allez essayer. En tout cas, on est de retour dans deux minutes. À tout de suite. Merci de vous réveiller avec l'équipe de BFM Première. On s'arrête à présent sur cette annonce qui va être faite tout à l'heure par Emmanuel Macron, qui va nous présenter à la mi-journée les contours de ce nouveau service militaire volontaire. Il a expliqué hier que l'armée française était la plus efficace de l'Union européenne. Alors qu'en est-il réellement ? Deux minutes pour comprendre avec vous, Dominique, si c'est vraiment le cas.
Alors, si on s'intéresse au nombre de soldats, aux effectifs, non, la France n'est pas la première armée européenne. Regardez, ça se joue à très peu. Mais la Pologne est juste devant, 200 000 soldats français. devant l'Allemagne, en dehors de ce critère. Alors oui, oui, on peut estimer, considérer que la France est bien la première puissance militaire de l'Union européenne. Au niveau mondial, c'est d'ailleurs assez clair. Regardez, on gagne même une place. La France est désormais septième, juste devant le Japon. C'est l'Italie qui est le deuxième pays de l'Union européenne classé dans ce top 10. Un classement de l'ONG Global Firepower qui prend en compte une soixantaine de critères. Et voilà ce que ça donne pour la France. Regardez, notre armée, finalement, elle est assez équilibrée. En rouge, vous avez le camembert de l'armée de terre. En gris, c'est la marine. Et en vert, c'est l'aviation. C'est ce qui donne ce côté équilibré, finalement. Tous les corps sont couverts dans l'armée française.
On entend parfois des experts qualifier notre armée de bonsaï. Pourquoi ?
Oui, de bonsaï, effectivement. Mmh. Ce petit arbre-là. Eh bien parce que, en fait, nous avons une armée complète, comme celle des États-Unis, mais en plus petit, en miniature, nucléaire, artillerie, aviation, marine, bref, tous les spectres sont couverts. Notamment, regardez, nous sommes les seuls, avec les États-Unis, à posséder un porte-avions nucléaire. Mais le matériel, ça ne fait pas tout. Et ce qui fait vraiment la force de l'armée française, c'est l'opérationnel, sa capacité et son expérience sur le terrain. Depuis la guerre d'Algérie, la France a participé à 34 guerres du Mali à l'Afghanistan. On peut citer l'Irak, la Libye, le Tchad, le Cambodge ou encore la Côte d'Ivoire. Voilà en résumé pourquoi l'on dit que l'armée française est l'une des plus complètes et l'une des plus autonomes. Je termine avec deux petites infos, les deux petites infos pour briller à la machine à café. Le nombre de femmes dans l'armée française, 17%. Ça peut paraître peu et pourtant c'est l'un des contingents les plus importants au monde derrière Israël, la Hongrie et les États-Unis. Et puis la plus petite armée du monde, 135 soldats seulement, c'est celle du Vatican. On les appelle, vous savez, les gardes suisses. Ils doivent être catholiques et mesurer au minimum 1m74 en dessous. Impossible de rentrer dans cette armée, même si dans les faits, si un jour le Vatican est attaqué, si le Vatican est en guerre, c'est l'armée italienne qui sera chargée de protéger la cité et le pape.
Vous ne passez pas la barre d'un 1m74, hein, Emmanuel ? Ce n'est pas possible pour vous.
Ah. Non. Si je me tiens bien droit là, si je pousse un peu, si je pousse un peu
avec
sur les talons,
avec la banane, ça passe haut la main. Ouais. Bon, allez, c'est à vous, Emmanuel. On va parler des véhicules électriques à présent. La chronique éco.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Retrouvez votre programme avec Fortuneo, numéro 1 au classement des banques les moins chères. Fortuneo, j'aime ma banque. Quel que soit votre objectif, tout devient possible avec la nouvelle Jeep Compass. Votre rendez-vous avec Jeep, votre solution entreprise.
Avec ce qui ressemble à une bonne nouvelle pour ceux qui veulent se doter d'une voiture électrique, le ministre de l'Économie, Roland Lescure, a annoncé hier une nouvelle incitation à l'achat.
Oui, effectivement, c'est un ministère de l'économie littéralement en fusion cet automne qui nous propose son nouveau chef-d'œuvre de complexité, fait de critères, de seuils, de conditions en tout genre. Je vous rappelle que la semaine dernière, si vous avez aimé la modernisation de la taxe foncière, vous allez adorer le nouveau bonus pour inciter à l'achat d'une voiture électrique. Alors depuis le 1er juillet, avait déjà été mis en place un dispositif qui prenait la suite du bonus écologique, dispositif selon lequel il était possible d'obtenir entre 3 000 et 4 200 euros de remise et même jusqu'à 5 200 depuis le 1er octobre. Alors selon les offres du constructeur, selon les revenus du client, selon la taille de la famille, c'était déjà pas simple, et bien là, la nouvelle limite sera plus élevée. Ce sera 5 700 euros potentiellement de bonus, et même dans certains cas, jusqu'à 7 700 euros.
Ça sent l'usine à gaz quand même. Comment va fonctionner ? Expliquez-nous comment ça va fonctionner ce nouveau dispositif.
Alors d'abord, quels seront les véhicules éligibles ? Ce seront sans doute les mêmes, hein, déjà que dans le dispositif actuel, des véhicules vendus moins de 47 000 euros, qui pèsent moins de 2,4 tonnes, qui ont un bon score environnemental, ce qui exclut en principe les voitures produites notamment en Chine. Alors est prévu un bonus de 5 700 euros pour les ménages précaires, 4 700 euros pour les ménages modestes, 3 500 pour les autres ménages, avec, et c'est là où ça se complique, un surbonus un peu flou encore, pour les batteries fabriquées en Europe, surbonus de 1 200 à 2 000 euros.
Les montants des primes qui peuvent potentiellement fluctuer à la hausse comme à la baisse, pourquoi ?
Eh bien parce que ces primes ne sont plus financées par l'État, figurez-vous, mais par les recettes provenant des contrats d'énergie payés notamment par de grandes entreprises de l'énergie sur le principe pollueur-payeur. Ces certificats viennent alimenter une cagnotte qui sert ensuite à financer divers projets dans l'habitat et donc dans l'automobile. Et ça, effectivement, le cours d'achat de ces certificats varie, c'est pour ça qu'on n'est pas très sûr. Alors est-ce que ça va fonctionner ? On voit que les sommes deviennent intéressantes, mais enfin la lisibilité des dispositifs pose problème. Imaginez-vous que vous êtes celui qui a profité du dispositif il y a 4 semaines, 5 semaines, vous vous dites bah mince, si j'avais attendu, j'aurais quand même pu. Voilà, donc le fait que les dispositifs changent tout le temps, ça fait que les gens sont pas très incités, et puis est-ce que ça comble l'écart entre ce que les gens peuvent se permettre d'acheter et ce dont ils ont vraiment besoin ? Pas sûr. D'ailleurs, les derniers dispositifs n'avaient pas vraiment super bien fonctionné.
Non plus. Il n'y a pas beaucoup d'annonces qui trouvent grâce à vos yeux en ce moment, Emmanuel.
Oui, si on pouvait faire un peu plus simple.
Bon, faisons plus simple, c'est le message d'Emmanuel Le Chypre ce matin. Reste avec nous dans un instant à la une du journal de 6h30. On va revenir sur ce brasier spectaculaire à Hong Kong. Les pompiers qui mènent une bataille infernale depuis 24 heures. Ces flammes ont déjà englouti plusieurs immeubles et le bilan est déjà très lourd. 44 morts et plusieurs centaines de disparus.
Et puis c'est la plante qui vous permettra de profiter pleinement des fêtes. Elle facilite la digestion, elle est détox, antioxydante et pourtant elle est très clivante. Vous avez deviné ? Allez, réponse à 6h40 dans votre chronique santé avec Aurèle Guedj.
Très bon début de journée avec BFM Première. On est ravis de vous accueillir avec Dominique, avec toute l'équipe. L'actualité ce matin nous emmène à Hong Kong avec ce brasier géant. Les pompiers mènent depuis hier une bataille infernale. Les flammes ont englouti plusieurs gratte-ciels. Il y a au moins 44 morts et des centaines de disparus.
Les tireurs sportifs dans le viseur des cambrioleurs. Le parquet confirme que plusieurs vols d'armes ont été commis après le piratage des données de membres et d'anciens membres de la Fédération française de tir. 1 million de personnes sont concernées.
Et si l'avenir financier de votre enfant se jouait dès ses premiers jours ? C'est ce que démontre une étude de l'INED. La moitié des enfants n'a aucune épargne, tandis qu'une poignée d'entre eux concentre l'essentiel.
Et puis c'est la plante qui vous permettra de profiter pleinement des fêtes. Elle facilite la digestion, elle est détox, antioxydante et pourtant elle est loin de faire l'unanimité. Vous avez deviné ? Réponse à 6h40 dans votre chronique santé avec Aurèle Guedj.
C'est une lutte acharnée qui dure depuis plusieurs heures, depuis hier, maintenant, face à cette colonne de feu monstrueuse. Les images terrifiantes de Hong Kong, de ce complexe résidentiel qui a été dévoré par les flammes, comme vous le voyez sur ces images en direct.
Ouais, les pompiers sont en train de venir à bout des derniers brasiers, mais les secours peinent encore à intervenir, n'ont toujours pas pu atteindre tous les appartements. On déplore déjà 44 morts. Les autorités redoutent un bilan beaucoup plus lourd, des centaines de personnes de résidents sont portés disparus. Bettina Guglielmo.
Ces immeubles d'habitation d'une trentaine d'étages sont devenus un véritable brasier. L'incendie s'est déclaré hier après-midi au nord de Hong Kong, dans ce complexe de 8 immeubles abritant au total quelques 2000 appartements. Ces tours en rénovation sont recouvertes d'échafaudages en bambou, technique ancestrale encore utilisée à Hong Kong. L'incendie se propage d'immeuble en immeuble. J'habite dans le bloc 2, donc j'ai vu le feu se propager du bloc 6 au bloc 5. C'est terrible pour nous. Je ne sais pas quoi faire. À la nuit tombée, les images sont apocalyptiques. Des centaines de logements sont dévorés par les flammes. Dans les rues du quartier, la solidarité s'installe. Plus de 900 personnes ont été accueillies dans des abris provisoires.
N'importe qui aurait le cœur brisé. C'est vraiment déchirant. Je ne pense pas que Hong Kong ait déjà connu un incendie pareil. C'est vraiment choquant.
Je me sens très perturbé, j'ai le cœur brisé. Si ces filets sur les échafaudages avaient été ignifugés, cela ne serait pas arrivé.
Cette nuit, 3 personnes ont été interpellées, soupçonnées d'homicide involontaire. Nous avons trouvé du polystyrène installé à l'extérieur des fenêtres à chaque étage et tout le monde sait que ce matériau est inflammable. Il pourrait être l'une des causes de l'incendie, de sa propagation rapide. La police a des raisons de croire que les responsables de l'entreprise concernée ont fait preuve de négligence grave. Au lever du jour, les pompiers combattaient toujours l'incendie, moins intense mais toujours actif. Plus de 200 personnes sont toujours portées disparues.
quand une cyberattaque mène à des cambriolages. Un million de membres d'anciens adhérents de la Fédération française de tir ont été victimes d'un vol massif de données.
Numéro de licence, état civil, mais aussi adresse postale. Le parquet confirme que certaines ont été utilisées pour organiser des cambriolages visant à dérober des armes. Milan Argelas.
Adresse postale, état civil ou numéro de téléphone. Les données personnelles d'un million d'actuels ou anciens adhérents ont été piratées en octobre dernier. De quoi inquiéter ces adhérents à des clubs de tir que nous avons rencontrés.
J'ai reçu un email de la Fédération française de tir qui donc nous a prévenu avec un long email en détail de ce qui s'était passé. C'est pas en tout cas agréable de savoir que ces données qui traînent.
Aujourd'hui, c'est compliqué de considérer que nos données confidentielles sont vraiment confidentielles.
Ces informations censées être confidentielles sont à présent mises en vente illégalement en ligne. La fédération assure que ni la profession ni le club de rattachement ne figurent dans le fichier. Cette intrusion informatique pourrait tout de même représenter un risque.
On est dans une situation où sur le web ou sur le dark web, on a une gigantesque base de données de Français qui potentiellement disposent d'armes à feu. Donc c'est une situation qui est particulièrement sensible, ce qu'a également confirmé la justice française, puisque les cambriolages se sont multipliés, notamment chez des adhérents.
Point commun de ces cambriolages, de faux policiers assurent venir contrôler les armes directement au domicile. La fédération appelle à la prudence.
La police, la gendarmerie ou la douane ne vous appellera jamais et ne viendra jamais spontanément chez vous pour récupérer vos armes.
L'origine de l'incident a rapidement été identifiée, mais pour l'heure, l'enquête de la brigade de lutte contre la cybercriminalité se poursuit.
Parlons épargne à présent, pas la vôtre, mais celle de vos enfants. À votre avis, quel est le montant moyen qu'ont les mineurs, détenus par les mineurs en France ?
Plusieurs centaines d'euros ?
Ouais. Ouais, on n'est pas loin, pas 1300 euros. Mais c'est une moyenne.
Forcément, avec les moyennes, c'est souvent un chiffre en trompe-l'œil, car derrière, il y a en fait de fortes disparités. Une étude de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, montre que le destin financier se joue dès le berceau. Saskia Juné-Dubinski, Valentine Rib, avec Blandine Dalena.
En France, plus d'un enfant sur deux, 55%, dispose d'un livret d'épargne.
Ils ont un compte chacun, donc on met depuis leur naissance en fait, donc même les papis, mamies ou les parents marraines.
Ils n'ont pas un énorme pactole, mais ça leur permettra de démarrer.
Mais ce chiffre veut aussi dire que près de la moitié des enfants français ne disposent d'aucune épargne.
On aimerait beaucoup mettre de côté pour nos enfants, mais c'est pas possible.
Comme le montre un rapport de l'Institut National d'Études Démographiques, les inégalités sociales se créent dès l'enfance. De par l'existence ou non d'un livret, mais aussi du montant qu'il y a dessus, puisque 10% des enfants concentrent 74% de l'épargne des mineurs.
Les enfants issus de milieux les plus modestes, on a à peu près 75% qui ont moins de 500 euros d'épargne. Chez les familles les plus riches, on a déjà plus de 10% des enfants issus de milieux de familles riches qui disposent de plus de 20 000 euros d'épargne. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 20 000 euros d'épargne, c'est à peu près l'épargne d'un ménage modeste.
Le montant de l'épargne dépend aussi de la taille de la fratrie. Un enfant unique détient en moyenne 3 112 euros contre 1 338 euros pour ceux qui sont issus d'une famille de 4 enfants ou plus.
Il y a Jérémy Trottin qui vient nous faire une révélation. Vous piquez sur l'épargne de votre enfant ?
Oui, j'ai pioché dedans pour couvrir un découvert.
Mais voilà. Qu'est-ce que c'est que ce papa ?
Ça arrive, je le rendrai. Je le rendrai.
Voilà. Vous lui avez pris combien ?
250 euros.
250 euros, mais enfin, ça se fait pas.
Oui, j'avais pas le choix.
Bon, il est un peu petit pour...
Oui.
Pour s'en rendre compte.
Oui, voilà. Je pense.
Il a quel âge ?
16 mois.
Ah oui, voilà. Ouais, il s'en rend pas compte. Vous avez le temps pour le rembourser.
Il regarde pas la télé.
Ni son livret.
La suite du feuilleton budgétaire, comme attendu, députés et sénateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord en commission mixte paritaire sur le budget de la Sécu.
Ça signifie que le texte repart en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale avec un nouvel examen dans l'hémicycle à partir de mardi prochain. Et pendant ce temps, les sénateurs examinent le budget de l'État sous le regard inquiet de la filière du CBD.
Oui, qui redoute une taxation et un encadrement de la vente de fleurs de chanvre. Le gouvernement condamne l'un des rares secteurs agricoles en plein essor, réagissent les producteurs, Igor Delagorce et Marjorie Marciac.
Pourra-t-il continuer à vendre du CBD dans sa boutique ? C'est la question qui préoccupe CAD. Car un article du projet de loi prévoit de restreindre la vente du CBD aux bureaux de tabac et à de futurs établissements agréés, sans plus de précision.
Bah, je suis un peu inquiet pour l'avenir du magasin. Et puis, les buralistes, ils ont pas forcément beaucoup d'expérience sur le CBD. Ils pourront pas vous renseigner comme on vous conseille dans une boutique, faire complètement l'expertise.
L'autre mesure qui affole le secteur, c'est la mise en place d'une nouvelle taxe. 25,7% en plus de la TVA. Ce représentant redoute l'effondrement de la filière.
Il revient à remettre en place une prohibition. On va perdre toutes les avancées qu'on a fait les 5 dernières années. On va avoir 2000 boutiques qui vont fermer dans les centres-villes. Nous allons avoir plus de 1000 exploitations agricoles qui vont fermer dans un secteur qui est déjà sous pression.
La crainte que ce durcissement favorise la concurrence étrangère.
On est déjà sur un marché qui est quand même tendu, hein. On parle de petites exploitations et ces acteurs-là qui prendront la place, c'est des acteurs étrangers, des acteurs industriels, et ce sera pour encore des produits qui sont pas traçables, qui sont pas qualitatifs, etc., etc., quoi.
En France, le marché du CBD représente un chiffre d'affaires de 850 millions d'euros et plus de 35 000 emplois.
Vous plissez les yeux comme ça, pour voir peut-être au loin.
Moi, je suis myope. Des fois, il y a les lunettes. C'est quoi, ouais. C'est lentilles, là?
Je triche. Non, c'est rien du tout.
Je
suis myope.
Je suis myope
comme beaucoup de Français, d'ailleurs. Ouais. Comme beaucoup de Français, adultes et enfants. D'ici 2050, écoutez bien, un adulte sur deux pourrait être concerné par de la myopie.
Ouais, on vous en parle parce que c'est la semaine nationale de la myopie. Et Magali Chalet et Julie Rosard vont vous expliquer comment repérer les premiers signes pour mieux freiner, justement, l'évolution de la maladie.
Maxence a une myopie très forte, moins 9 à chaque œil. Il doit se résoudre à se faire opérer.
Depuis que je suis au CP, j'avais 7 ans. Au départ, c'était un peu stable. Puis après, quand j'ai commencé à faire mes études, ça a empiré de chaque année. Des fois, je pouvais changer de lunettes deux fois par an. Et jusqu'à maintenant, où je suis à mon œil du coup.
La myopie est un allongement excessif du globe oculaire qui entraîne une vision floue de loin. En France, plus de 30% des adultes sont myopes et un enfant sur 5. La maladie apparaît de plus en plus tôt et progresse de plus en plus vite, notamment à deux périodes critiques, entre 7 et 9 ans et 10 et 12 ans. Un développement d'autant plus préoccupant qu'il accroît significativement le risque de complications à l'âge adulte. Pourtant, il existe des outils pour la freiner.
Les lentilles rigides de nuit, les gouttes d'atropine que l'on met tous les jours chez les enfants et les verres qui permettent de faire ralentir la myopie depuis 4-5 ans. Après, pour moi, il y a peut-être une quatrième technique, c'est les implants fac. Moi, ça fait 10 ans que j'en pose. C'est des patients qui ont des myopies très fortes. Et ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas d'évolution myopique suite à la pose de ces implants chez des personnes que je suis depuis des années.
Au quotidien, des habitudes simples peuvent clairement limiter les risques de myopie, passer au moins 2 heures par jour à l'extérieur, réduire le temps devant les écrans, respecter une distance d'au moins 30 cm avec son livre ou son écran, dormir suffisamment et enfin, en cas d'activité en vision de près, faire des pauses toutes les 20 minutes et regarder au loin pendant 20 secondes.
En Ligue des Champions, la folle soirée hier du PSG qui est venu à bout de Tottenham après un match spectaculaire au Parc des Princes.
Ouais, c'est peu de le dire, mené à deux reprises, les Parisiens ont renversé les Spurs grâce à l'homme de ce match. Vitinha, auteur d'un triplé qui a répondu au doublé de Randal Kolo Muani, prêté par le PSG à la clé, une victoire 5-3 qui permet à Paris de prendre la deuxième place du groupe derrière Arsenal.
Et puis des nouvelles aussi d'un ancien Parisien spectaculaire aussi, Kylian Mbappé, mais dans une forme olympique avec le Real. C'est l'Olympiakos qui en a fait les frais. Et 1, et 2, et 3, et 4. 4 buts pour Kylian Mbappé qui permet à son équipe de renouer avec la victoire 4-3.
Ouais, difficile soirée en revanche pour Monaco, vous le voyez, qui a dû se contenter d'un nul de partout face au club chypriote de Paphos. La culture, la politique et la santé, vos chroniques du matin dans BFM Première, c'est tout de suite.
Vos factures de chauffage augmentent, votre rendez-vous avec Fleuron Industrie, grossiste en isolation thermique extérieure pour les particuliers. Fleuronindustrie.com.
Retrouvez votre programme avec Fortuneo, numéro 1 au classement des banques les moins chères. Fortuneo, j'aime ma banque.
Et ce matin, on vous parle sans doute de l'herbe la plus clivante qui soit. Quand on parle d'elle, ça déchaîne les passions, ça génère des débats à table.
Moi, j'adore.
J'adore.
Voilà,
aussi.
J'adore.
Je peux en mettre partout.
Il n'a pas suivi, Kevin.
C'est
la coriandre.
C'est
la coriandre.
Du coup, même genre d'herbe.
Le CBD, non, on a changé de sujet, Kevin.
Non, on est soft, vous savez ce qu'on a.
Oui, moi aussi, je n'en consomme pas.
Alors, la coriandre, on est pour, on est contre?
Ah, bah, totalement.
Ah, totalement, mais il n'y a que des pour.
Ouais, moi, j'adore
la cuisine.
Non, mais alors, pourtant, le problème, c'est que quand il y a des gens qui n'aiment pas la coriandre, c'est de la détestation, c'est de la haine vis-à-vis de la coriandre. Et vous allez nous dire dire que c'est pas qu'une question de goût.
Non, justement, c'est pas qu'une question de goût. Maintenant, on peut vous défendre. C'est pas juste parce que vous êtes casse-pied, vous avez une variation génétique. Une variation génétique sur le chromosome 11, sur un gène un peu particulier, le gène OR6A2, alors un nom un peu compliqué, mais qui a une importance, puisque ce gène-là, il est responsable justement de l'olfaction de certaines molécules de la coriandre. Et en fait, ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est qu'en fonction des ethnies, eh bien, vous allez voir que des gens ont cette modification génétique plus ou moins de façon importante. Par exemple, pour les caucasiens, vous avez à peu près une personne sur cinq qui a cette variation génétique, alors que par exemple, pour les personnes du Moyen-Orient, on est à peine à 3%. Et donc, dans ce genre de cas, malheureusement, si vous avez cette variation génétique, c'est pas de votre faute, probablement que bah, en fait, vous n'aimerez jamais la coriandre, que vous le vouliez ou non.
Certains ont un goût de savon, enfin, pensent que ça fait comme un goût de savon, non, c'est ça?
Eh ben, exactement. Ils pensent que ça fait un goût de savon, mais pour que vous ayez une idée, la chose qui est assez intéressante, eh ben, en fait, c'est que c'est pas, moi j'aime bien cet exemple-là, c'est pas vous sentez une odeur, par exemple, de marshmallow, et eux sentent une autre odeur différente. C'est pas juste la mutation génétique, elle est pas sur le fait que la perception est différente de la même molécule. Ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, là, je vous ai pris un bol de chamallow. C'est globalement le cocktail d'aldéhyde que vous allez sentir quand vous prenez de la coriandre. La majeure partie des gens, quand ils vont sentir quoi, là, par exemple, dans cet exemple?
Du sucre.
Du sucre, du chamallow. Alors qu'en fait, ce qui est hyper intéressant avec la personne qui a cette mutation génétique, la mutation dont on a parlé, eh bien, en fait, lui, il va être capable de sentir des toutes petites molécules d'aldéhyde que vous ne captez pas. En fait, vous avez une forme de super pouvoir. Quand vous n'aimez pas la coriandre, vous pourrez dire ça. Vous n'êtes pas juste casse-pied. Vous avez un pouvoir de plus. C'est que vous êtes capable de sentir des aldéhydes que les gens normaux, ils perçoivent pas cette quantité-là.
Donc on a un meilleur nez quand on sort pas la coriandre.
Eh ben, probablement, sur certains aldéhydes, vous avez un meilleur nez. D'ailleurs, je vous invite vous-même à vous poser la question.
Elle a pas compris qu'il fallait sentir. Non, mais elle a cru qu'il fallait manger, Perrine.
Mais parce qu'elle a compris le principe de la rétro-olfaction. Justement, puisque la coriandre, eh bien, c'est de la rétro-olfaction, eh bien, donc les gens qui sentent la coriandre arrivent à sentir justement ces petits morceaux d'aldéhyde que nous ne captons pas.
Donc vous n'êtes pas un casse-bonbon, vous n'êtes pas la coriandre. Voilà, merci Aurèle.
Si vous avez entre 18 et on va enlever ça entre 18 et 25 ans, ou si vous avez des enfants de cet âge-là, vous connaissez sûrement Hugo Travers, plus connu sous le nom d'Hugo Décrypte, évidemment star des réseaux sociaux. Je crois que c'est 20 millions d'abonnés. Voilà, il a lancé son média en ligne sur YouTube en 2015, il y a 10 ans déjà. Il s'est aventuré dans la télé, dans les podcasts, bref, il réussit tout. Et là, ça y est, il se lance dans la bande dessinée.
Dans la bande dessinée, oui. Alors, sans surprise, on parle de quoi dans cette bande dessinée? Eh bien, d'actualité, parce que c'est un petit peu l'obsession d'Hugo Décrypte depuis maintenant 10 ans, rendre l'actualité accessible aux jeunes de sa génération. Il a 28 ans. Donc, sa première bande dessinée, la voici. Il parle de la Russie. 1000 ans d'histoire compressée en 200 pages. C'est un travail titanesque. Alors, il n'est pas seul, il s'est entouré d'un comité d'experts. Alors, pourquoi commencer par la Russie, par ce pays? Eh bien, on lui a posé la question au micro de Jean-Marie Marchaud.
Et nous, ce qu'on observe et ce qu'on a vu avec ce travail qui a été fait avec des historiens, c'est que Vladimir Poutine tente de réhabiliter un certain nombre de figures de l'histoire de la Russie, des figures qui avaient clairement des visées impérialistes. Et donc, on a essayé de déceler, en fait, à quoi ça ressemble ce discours de Vladimir Poutine, voire, eh bien, notamment, essayer aussi de démonter un certain nombre de mythes qui sont propagés parfois dans ce discours-là, pour voir ce qu'il en est réellement.
Voilà, l'idée c'est de comprendre le présent en retraçant le passé, en gros de rentrer dans la tête de Vladimir Poutine pour comprendre ce qui se joue en Ukraine. Alors, vous le voyez ici, le jeune en sweat blanc, eh bien c'est Hugo lui-même, qui traverse l'histoire de la Russie. Il rencontre des figures marquantes. Alors là, par exemple, eh bien, il discute avec un viking, le viking Riurik. Et c'est là où la bande dessinée devient un outil absolument génial. On voyage, on s'immerge, on comprend mieux. C'est drôle, c'est rythmé, c'est bourré de rebondissements, de sauts dans le temps. Alors, c'est Hugo Décrypte qui a imaginé le déroulé, mais il s'est entouré aussi d'un scénariste et d'un dessinateur, le dessinateur Coco Pello. On l'écoute.
Avec juste la force d'un crayon et d'une gomme, on fait une super production. Si on a besoin de faire apparaître 3000 cavaliers mongols au galop, on fait une charge de 3000 cavaliers mongols au galop, et ça coûte autant que de faire un seul personnage sur scène. La bande dessinée a permis de démultiplier justement toutes les capacités à la fois d'écriture, de scénario et de vulgarisation de toutes ces informations-là.
Voilà, et donc c'est accessible dès 13 ans, et c'est parfait puisque c'est exactement l'âge où on commence à apprendre l'histoire de la Russie au collège.
Merci beaucoup, Alix.
Jérémy, parle politique à présent, mais vous, les sénateurs, les députés n'ont pas réussi hier à se mettre d'accord autour du budget de la sécurité sociale en CMP, la fameuse commission mixte paritaire. Le texte, hop, rebelote, revient donc à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, pour le meilleur et pour le pire, avec le retour de pas mal de taxes, vous nous dites.
Oui, car si nos très bons élèves sénateurs ont réussi à réduire le déficit de la sécurité sociale à 17 milliards d'euros l'an prochain contre 23 l'an dernier, les députés devraient, quant à eux, à nouveau bien alourdir la facture. Alors déjà, la réforme des retraites, la suspension a été rejetée au Sénat, mais elle sera rétablie à l'Assemblée. Ça coûte 2 milliards d'euros, mais c'est incontournable, c'est la base politique de ce château de cartes bien fragile qui est le budget 2026. Et comment vous payez, vous me direz, faut-il geler ou non, par exemple, les retraites et les prestations sociales? Les deux mesures rejetées à l'Assemblée en première lecture pourraient revenir, mais dans une version un petit peu différente. Les sénateurs ont, par exemple, proposé de geler les retraites de plus de 1400 euros seulement. Il est possible que les députés remontent ce plafond. Quid aussi, vous savez, de la hausse de la CSG, 2,4% sur les revenus du patrimoine. Ça touche beaucoup de monde, c'est encore ça de moins dans le portefeuille des Français, mais ça rapporte beaucoup aux caisses de l'État. On ne sait pas encore précisément si ça revient et à quel niveau.
Il y a des sujets très, très concrets, Jérémy, pour les Français qui concernent notre quotidien.
C'est ça. Ils sont à la fois explosifs et c'est des sujets sur lesquels le gouvernement marche sur des œufs. On peut déjà parler du doublement des franchises médicales, la surtaxe aussi sur les mutuelles et les tickets restaurants. C'était dans la version initiale du gouvernement, donc ça va revenir à l'Assemblée. Même chose sur la fiscalisation des prestations versées aux malades longue durée, notamment aux malades atteints d'un cancer. Et certaines petites taxes aussi comportementales bien bien irritantes hein, et souvent très mal expliquées pourraient-elles aussi faire leur retour dans l'hémicycle. On pense à la taxe sur les boissons qui mixent alcool fort et boissons énergisantes. Mais rassurez-vous, tout un tas de propositions un peu baroques hein, sur les taxes comportementales ne devraient pas revenir à l'Assemblée pour des raisons techniques. Et le fameux « travailler plus pour gagner plus », c'est 12 heures que les sénateurs voudraient que les Français travaillent en plus chaque année. Ça, en revanche, c'est quasi certain que ça ne reviendra pas à l'Assemblée.
Bon, on n'est pas au bout de ce feuilleton budgétaire, en tout cas. Petite image bonus, explication de texte avec cette image qui a été publiée hier par le Rassemblement National.
C'est ça, une image ou une riposte à choisir. C'est la riposte en tout cas du RN selon moi. Vous vous souvenez de ce sondage dont on a beaucoup parlé hier, qui ne testait pas Marine Le Pen? Bah regardez, ce matin, elle apparaît partout, la triple candidate à la présidentielle, partout aux côtés de Jordan Bardella, dans ses visuels diffusés par le parti sur X. Alors ça nous dit quoi tout ça? Cela nous dit que le parti veut couper court à toute hypothèse dans laquelle on pourrait imaginer que Marine Le Pen a déjà renoncé à se présenter à la prochaine présidentielle sans attendre finalement son procès en appel. Ça nous dit aussi et surtout que Marine Le Pen n'est pas du tout décidée à lâcher les clés du camion. Et pourtant, Jordan Bardella est donné largement vainqueur dans tous les cas de figure de ce sondage au Doxa.
C'est peut-être un petit détail, ce visuel, mais ça veut dire beaucoup.
Pour eux,
ça veut dire beaucoup. Allez, à la une du journal de 7h, vous restez avec nous. On va revenir sur l'information de la nuit. Cette fusillade, il y a quelques heures, tout près de la Maison Blanche, un homme de nationalité afghane a ouvert le feu sur deux membres de la garde nationale en patrouille. Les toutes dernières informations dans le journal de 7h. Il est bientôt 7h, bienvenue sur BFM TV, merci d'avoir choisi BFM Première pour démarrer la journée. À la une ce matin, il y a cette fusillade aux États-Unis, il y a quelques heures à Washington, tout près de la Maison Blanche. Un homme de nationalité afghane a ouvert le feu sur deux membres de la garde nationale en patrouille. Les toutes dernières informations dès le début de ce journal.
10 mois d'engagement ouvert à tous dès 18 ans, Emmanuel Macron présentera en fin de matinée les contours du nouveau service militaire. Il sera volontaire cette fois, l'armée de terre espère recruter 10 000 jeunes l'an prochain.
La cocaïne était cachée sous les courgettes. C'est une saisie étonnante à laquelle ont procédé les douaniers à Marseille. Marchandises estimées à 4 millions d'euros. Les Restos du Cœur ont pu récupérer, eux, les cagettes de légumes.
Et puis, pourrait-on se passer de foie gras à Noël? Ce sera notre question du jour à 7h10. Alors que les tarifs restent élevés, les conditions d'élevage souvent critiquées, les alternatives véganes cartonnent. Charlotte Méritant nous fera tester différents produits.
L'information de la nuit, c'est donc cette fusillade à Washington, tout près de la Maison-Blanche.
Un tireur a ouvert le feu sur deux soldats de la garde nationale qui étaient en patrouille. Les deux hommes sont toujours ce matin dans un état critique. Le suspect, lui, a été interpellé. Il est également blessé. Antoine Fernandez.
Seulement quelques minutes après la fusillade, les autorités locales prennent en charge deux militaires de la garde nationale américaine. Les deux hommes sont au sol, victimes de tirs ciblés en plein cœur de Washington et à seulement quelques mètres de la Maison Blanche. Vers 14h15 heure locale, un homme armé arrive à l'angle d'une rue de la capitale américaine, puis se dirige vers les deux militaires alors en patrouille. Plusieurs coups sont tirés, l'assaillant est rapidement maîtrisé par d'autres gardes nationaux. Dans la nuit, Donald Trump décrit le profil du tireur.
L'animal qui a perpétré cet atroce acte paiera le prix le plus élevé possible. Le suspect en détention est un étranger entré dans notre pays en provenance d'Afghanistan, un véritable enfer sur Terre, en septembre 2021.
Le suspect est un homme de 29 ans. Selon les médias américains, il avait fait une demande d'asile, accordée par l'administration Trump en avril 2025. L'homme avait travaillé avec l'armée américaine en Afghanistan. Les deux militaires touchés sont grièvement blessés, toujours dans un état critique. Ces témoins de la fusillade racontent.
Le membre de la garde nationale avait la tête couverte de sang. Il y avait plein de monde autour de lui et puis on l'a fait monter dans l'ambulance.
Ces derniers mois, c'est sur décision de Donald Trump que les militaires étaient déployés dans la capitale. L'administration du président annonce renforcer leur présence en déployant 500 soldats supplémentaires. Toutes les demandes d'immigration des ressortissants afghans sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.
Près de 3 Français sur 4 sont favorables au retour d'un service militaire volontaire. Je précise bien, c'est ce qui ressort de notre sondage Elab pour BFM. Alors qu'Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui en Isère, il devrait en préciser les contours. Dominique, l'Élysée dit vouloir offrir un nouveau cadre aux jeunes pour servir au sein des armées.
Oui, alors selon nos informations, ce service militaire volontaire serait ouvert à tous les jeunes majeurs, donc à partir de 18 ans, aux hommes comme aux femmes. 10 mois d'engagement volontaire, ça c'est la durée d'engagement prévue pour ce nouveau service militaire, rémunéré 950 euros par mois. Et puis, élément intéressant pour les étudiants, les jeunes qui voudraient faire et qui voudraient s'engager pendant 10 mois, ils pourront bénéficier de 60 crédits, c'est l'équivalent d'une année universitaire. Alors que pensent de ce nouveau service militaire, ceux qui l'ont déjà effectué, le vrai, cette fois, c'était il y a quelques années, eh bien, nous sommes allés leur poser la question, Philippine David et Milan Argelas.
Eh bien, je suis là. Franck et Frédéric ont tous les deux effectué leur service militaire à 23 ans.
J'ai toujours ce costume, bien entendu.
C'est vrai ?
Tiens, Frédéric, je le vois.
Non.
Bah, bien sûr que si.
Génial.
En voyant ces photos, Franck se souvient de sa première fois avec une arme. C'était à Clermont-Ferrand, au 92e régiment d'infanterie.
Voilà, on va te donner une arme de guerre. La cible était un soviétique. Parce qu'en fait, l'ennemi était à l'est. La France se préparait à un conflit qui viendrait de l'est.
Aujourd'hui, 67% des Français jugent improbable une attaque militaire russe en France dans les années à venir. La menace soviétique était à l'époque présente dans la tête de ses deux amis. Frédéric tire, lui, un autre enseignement de cette période.
J'avais passé mon enfance, mes études à Paris, dans le 7e arrondissement, donc dans un milieu bourgeois. Et pour la première fois de ma vie, j'ai une représentation de la société que je ne connaissais pas avant, avec des pauvres, des riches, des qui n'ont pas fait d'études, des qui ont fait des études.
C'est quelque chose qui permettait de faire nation, c'est-à-dire de vivre ensemble.
Pour Philippe et François, c'était il y a 40 ans.
Ouais, je ne regrette pas.
Mais cette année reste gravée dans leur mémoire.
On se rend compte que de souffrir ensemble, d'avoir des contraintes assez fortes, forcément, ça augmente la solidarité.
Je pense que c'est un passage vers l'âge adulte. Et puis moi, j'ai donc eu la chance d'être officier, et moi, ça m'a appris à gérer des gens, ce que j'ai fait quand même pendant une trentaine d'années après.
73% des Français se disent aujourd'hui favorables à la création d'un service militaire volontaire.
Et notez que l'ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, sera à 8h30 l'invité du face-à-face avec Apolline de Malherbe. Venons-en, Périne, à cette importante saisie de stupéfiants lors d'un contrôle. C'était au péage d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône.
Ouais, plus de 300 kilos de cannabis, une trentaine de kilos de cocaïne étaient dissimulés dans des cagettes de fruits et légumes. Alors, la drogue a été saisie. Les fruits et les légumes, ils ont été distribués au resto du cœur.
C'est pas l'inverse.
Non, pas l'inverse. Boris Karlamov, Cindy Chauveau et Adrien Spiteri.
À l'intérieur de ces sachets, 329 kilos de cannabis et 27 kilos de cocaïne. Des produits stupéfiants saisis lors d'un contrôle au péage d'Arles dans la nuit du 20 au 21 novembre, qui étaient dissimulés dans ces cagettes de fruits et légumes. Un mode opératoire habituel.
C'est pas toujours des fruits et légumes, c'est pas toujours la circulation sur des camionnettes, mais c'est en tout cas un mode de dissimulation auquel la douane est régulièrement confrontée.
Arrêté, le conducteur a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. La nourriture, elle, a été donnée au Resto du Cœur. Montant total de la marchandise illicite interceptée, 4 millions d'euros.
Il y a un enjeu pour la douane, c'est bien sûr déjà d'assécher, mais pas uniquement de saisir de la marchandise, mais derrière, en lien avec la police, en lien avec la gendarmerie, en lien avec les magistrats, d'essayer à chaque fois de remonter le fil pour arrêter des personnes, démanteler des réseaux.
En 2024, la douane française a saisi plus de 110 tonnes de produits stupéfiants, dont 20 tonnes de cocaïne. 92 organisations criminelles ont été démantelées.
Faut-il y voir ce matin un pas supplémentaire vers une paix en Ukraine ? Pour la première fois cette nuit, Moscou évoque un processus sérieux pour qualifier les efforts diplomatiques américains, alors que Vladimir Poutine était hier au Kyrgyzstan pour une halte culturelle, comme si de rien n'était, image dont le contraste est saisissant avec la réalité sur le terrain.
Oui, avec la réalité sur le terrain et avec ces négociations diplomatiques en cours. Peut-être l'Ukraine dans un point de bascule ce matin, BFM TV est sur place alors que le pays entre dans un quatrième hiver de guerre. On vous retrouve, Clémence Dibou. Y a-t-il tout de même un espoir ? Quel est l'état d'esprit des Ukrainiens sur place ?
L'état d'esprit, c'est que cette guerre, depuis 4 ans, elle est rentrée dans le quotidien des Ukrainiens, à l'image de ces carcasses de chars qui sont exposées aux Ukrainiens sur l'une des places principales de Kiev, devant le monastère Saint-Michel. Non, il n'y a pas vraiment d'espoir suscité ici par les Ukrainiens, auprès des Ukrainiens, pour ce plan de paix, parce que pour les Ukrainiens, et c'est une idée viscérale ici, les Russes gagnent du temps avec cette proposition, ou c'est pour parler ou ces négociations, et in fine, ils ne veulent pas la paix. Pour preuve, ces révélations de Bloomberg, de cette conversation téléphonique entre Steve Witkoff, le conseiller diplomatique de Donald Trump et son homologue russe, où eh bien, il lui donne des conseils pour savoir comment s'adresser à Donald Trump. Pour les Ukrainiens, eh bien, c'est bien la preuve qu'il y a une collusion cachée parfois entre des diplomates américains et ukrainiens. C'est ce parlementaire ukrainien qui expliquait dans la presse que ça fait longtemps que pour les Ukrainiens, Steve Witkoff, c'est d'abord un businessman dans l'immobilier qui est là pour faire des affaires avec des oligarques russes qu'il a fait par le passé. Et puis, ce député de l'opposition avec qui nous avons parlé, avec Valentin Rivolier hier soir, qui nous expliquait qu'il y a bien que les Européens pourraient être surpris de cette collusion et que eh bien, Steve Witkoff avait trouvé la faille côté russe, c'est de faire du business ensemble. Écoutez-le, il était au micro de Valentin Rivolier.
Petit problème de son qui ne part pas manifestement. C'est pas grave, on trouvera Clémence Dibou dans quelques minutes dans un prochain journal. D'ici là, petite pause, on va parler du foie gras, tiens, dans un instant. Ce sera notre question du jour. Pourrait-on se passer de foie gras à Noël, alors que les tarifs restent élevés, les conditions d'élevage souvent critiquées, les alternatives véganes cartonnent. Charlotte Méritant nous fera tester ici en plateau quelques produits.
Et puis, faut-il augmenter le SMIC au-delà de la hausse prévue par l'inflation? Un rapport d'experts doit être rendu aujourd'hui. On en parlera dans la chronique éco d'Emmanuel Le Chypre. On est de retour dans moins de 2 minutes. A tout de suite.
De retour sur le plateau de BFM Première avec notre question du jour ce matin, qui fera sans doute bondir quelques puristes qui n'imaginent pas un Noël sans foie gras. Pourrait-on s'en passer cette année? On est en droit de se poser la question, évidemment, entre les préoccupations autour du bien-être animal et puis les prix aussi qui s'envolent sur fond de menaces de grippe aviaire. Charlotte Méritant, un Noël sans foie gras, est-ce que c'est possible?
Bah écoutez, pour répondre à la question, je vais vous faire goûter deux types de foie gras, entre guillemets. Vous allez vite comprendre pourquoi je mets des guillemets. Si j'ai au moins un testeur sur ce plateau, ça m'arrangerait.
Oui.
Alors allez-y.
Je pense qu'on voit la différence. Ouais. Enfin, moi, je vois la différence déjà.
Je ne sais pas si on voit bien.
Parce que visuellement, il y en a quand même un qui est très appétissant, l'autre un peu moins. Alors après, il faut goûter. Mais
il faut goûter, vous allez voir que...
Voilà, parce que la grue peut s'approcher du foie gras. Voilà.
C'est le vrai.
Oui. Voilà,
c'est le vrai.
Avec une couleur un petit peu plus rosée, c'est ça ?
Exactement, bien joué. Et le deuxième, évidemment, vous l'avez peut-être deviné, c'est du faux gras ou foie gras végétal. En tout cas, il n'y a pas un canard qui a vu ce produit-là. Donc, c'est un produit qui est
alors,
à base...
Attendez, je vais goûter le faux, moi. Mais alors, c'est vrai qu'il est, un peu grisou, votre faux foie gras, là.
Ils ont essayé de reproduire la couleur du foie gras, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est fait avec de la noix de cajou, de l'huile de coco, donc c'est entièrement des matières végétales. Ça peut paraître un peu surprenant. Il y a un peu de champignons. aussi chaque... pour donner un petit côté.
Alors attendez, moi je trouve qu'il y a un goût d'agrumes dedans.
C'est vrai. Alors pourtant, ouais. Ouais, non, il n'y a pas du tout d'agrumes à l'intérieur, il n'y a pas de citron, il n'y a pas d'orange.
C'est, la, c'est la coriandre, t'inquiète. Moi j'ai
ça doit être ça. Il y a un petit peu de champignons, peut-être pour donner ce côté un petit peu terrine. Alors évidemment, c'est une alternative qui se développe sur le marché. C'est, ça reste un tout petit marché, mais il y a plusieurs marques et c'est là qu'on voit que ça se développe. C'est que sur la grande, dans la grande distribution, plusieurs se mettent sur ce créneau-là et pour des raisons que vous avez évoquées, évidemment la raison éthique et puis le prix
en
aussi.
En termes de prix justement, c'est quoi? C'est du simple au double ou c'est...
C'est même plus que du simple au double. Sur le faux gras ou foie gras végétal, on est environ à 30 euros le kilo contre une centaine d'euros le kilo pour le foie gras de canard entier. Enfin,
30 euros le kilo pour de la noix de cajou et ça reste cher quand même.
Ça reste un petit peu cher.
J'ai rien dit, il n'a pas goûté.
Et sachant que, évidemment, les coûts de production du foie gras sont bien plus importants pour des raisons évidente d'élevage, de nourriture des animaux, de main-d'œuvre, etc.
Vous êtes venu avec encore d'autres alternatives au foie gras, peut-être un peu moins cher.
Oui, alors par exemple, si vous êtes vraiment un puriste du foie gras, vous pouvez vous tourner, mais que vous n'avez pas le budget, vous pouvez vous tourner vers quelque chose qu'on appelle le bloc de foie gras. Ça reste du foie gras, simplement, c'est du foie gras reconstitué. Donc on prend des morceaux, on rajoute de l'eau et on fait quelque chose qui reste du foie gras de canard, mais qui n'est pas du foie gras entier, donc un peu moins cher, autour de 60 euros le kilo, 30 à 40% moins cher quand même que le foie gras de canard entier. Et sinon, vous avez une autre alternative qui ressemble à ça. Alors, vous connaissez ?
Ah oui.
C'est de la mousse ou du fond de canard.
La mousse de canard, oui.
C'est beaucoup moins cher.
Mais c'est moins festif aussi.
Et 50 euros le kilo, c'est moins festif. Et surtout, sachez une chose, si vous prenez ce type de produit, vous avez, alors en tout cas dans celui que j'ai choisi, à peu près 20% de canard, mais la majeure partie de ce produit, c'est du porc. En fait, c'est
Ah oui, d'accord.
Il y a plus de porc que de canard.
On est sur de la mousse de canard.
On est plus sur de la mousse de porc aromatisée au canard, on va dire.
Ouais, moi, je vous invite à goûter chez vous parce que je trouve franchement que c'est pas mal, votre foie gras vegan. Et donc, 30 euros le kilo. Enfin, encore une fois, je trouve qu'il y a un petit goût d'orange, mais c'est très bon.
Voilà.
Et on en aura besoin ce soir sur BFM TV. Pourquoi ? Parce qu'il y a un événement ce soir, c'est les 20 ans aujourd'hui de BFM. Et donc, du coup, on va faire une grande soirée autour d'Alain Marchal, d'Olivier Truchot, toute la rédaction, pour fêter ces 20 ans qui ont bouleversé le paysage de l'audiovisuel français, bouleversé aussi notre rapport à l'information. Et à cette occasion, le groupe RMC BFM lance une nouvelle application que je viens de télécharger, d'ailleurs, parce qu'elle est toute neuve, l'application BFM TV. Bonjour François Aubel, vous êtes directeur du digital chez RMC BFM. Vous nous la présentez, la nouvelle appli?
Bah, écoutez, c'est le cadeau pour les 20 ans aussi, pour qu'on offre à tous nos téléspectateurs, à tous nos utilisateurs. C'est toute l'info BFM réunie en une seule application. C'est vraiment l'info produite par BFM TV, l'info produite par BFM Business, par toutes nos locales. En fait, c'est la porte d'entrée unique vers toute l'info de BFM Télé et tous nos contenus et tous nos formats. C'est-à-dire qu'on retrouve nos vidéos, on retrouve nos articles, on retrouve nos podcasts, des shorts. Je sais que vous êtes inscrite récemment sur TikTok. Et bien voilà, vous trouvez nos shorts.
C'est bien, on voit ma promotion parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés.
Mais tu es une TikTokeuse, c'est en train de dire une influence.
En tout cas, on retrouvera tous ces shorts.
Regardez, on le voit à l'écran parce qu'on a fait quelques tests justement à la rédaction. Et donc ça, c'est la nouvelle application que vous pouvez trouver depuis hier.
Depuis hier, vous retrouvez effectivement. L'idée, c'était de mieux hiérarchiser l'information. On retrouve vraiment toute l'actu chaude, ce qui est la promesse, l'ADN de BFM. Et puis montrer aussi toute la profondeur de nos contenus, c'est-à-dire je vous en parlais, nos podcasts, nos vidéos, nos shorts. Si on prend un cas concret, ce matin, par exemple, vous commencez à regarder la matinale chez vous, eh ben vous pouvez continuer à la regarder dans les transports en direct avec notre nouvelle page des directs. Et puis vous pouvez aussi l'écouter avec BFM Radio Direct, c'est-à-dire que vous pouvez aussi la podcaster, l'écouter en direct, voilà. Et puis, si après la matinale, bien sûr, vous pouvez aussi aller découvrir toutes les matinales de nos régions.
Mais c'est ça qui est super, Lyon. Vous avez l'univers BFM, vous avez BFM Lyon, BFM Marseille, vous avez tous les BFM locales accessibles, ça aussi c'est super.
Oui, et en plus, si vous n'avez pas le temps de regarder toutes les matinales, vous pouvez aller aussi sur BFM de regarder toute l'actualité internationale, suivre le déplacement du Papillon 14 en Turquie.
Et en fonction de ses centres d'intérêt, on peut sélectionner ce qu'on a envie de recevoir.
On peut personnaliser sa navigation. Et par exemple, si on n'a pas le temps et qu'on veut voir les dernières infos, on va dans notre fil actu, ça sélectionne pour vous toutes les dernières actus. Et vous pouvez aussi, vous avez un petit bouton en haut à droite, et vous regardez quand vous êtes dans le fil actu.
Ah oui, dans le fil actu, d'accord. Voilà. Okay.
Dans le fil actu.
Et ben, l'essentiel.
L'essentiel, ouais. Exactement.
Et là, ah vous oui, on n'a que les alertes infos.
Toutes nos alertes infos, ce qu'on appelle dans notre jargon les alertes infos. Donc vous pouvez avoir les dernières actualités.
C'est combien l'audience, l'appli?
Aujourd'hui, sur l'app et site, on a 200 millions de visiteurs.
200 millions de visiteurs. Ouais. Bah, écoutez, voilà. Allez, voilà, donc n'hésitez pas à télécharger l'application. Merci d'être venu nous faire cette petite présentation. Tout de suite, l'écho avec Emmanuel Lechypre.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Retrouvez votre programme avec Fortuneo, numéro 1 au classement des banques les moins chères. Fortuneo, j'aime ma banque. Quel que soit votre objectif, tout devient possible avec la nouvelle Jeep Compass. Votre rendez-vous avec Jeep, votre solution entreprise.
Faut-il augmenter le SMIC? On va se poser la question avec vous, Emmanuel, car le groupe d'experts sur le SMIC va remettre son rapport annuel tout à l'heure, à 17h, je crois. Est-ce qu'il va recommander un vrai coup de pouce ou une revalorisation automatique en fonction de l'inflation? C'est la question.
Alors, c'est la tradition, effectivement, ce groupe d'experts qui existe depuis 2008 présente chaque fin d'année des recommandations sur le SMIC qui sont ensuite discutées par les partenaires sociaux avant que le Premier ministre ne prenne un décret fixant le niveau du salaire minimum au 1er janvier. Il avait été créé, ce groupe d'experts, parce que le SMIC est un sujet extrêmement politique et inflammable en France, effectivement. Et cette fois, il n'y aura pas de surprise. Les experts ne conseilleront pas de revalorisation exceptionnelle. Et le Premier ministre, selon toute vraisemblance, suivra leurs conseils.
Pourquoi pas de coup de pouce supplémentaire?
D'abord parce que ces experts n'ont recommandé de coup de pouce exceptionnel que dans des circonstances extrêmement rares. On l'a dit, ce groupe existe depuis 2008 et il n'y a qu'en décembre 2009, au lendemain de la crise financière, que ce groupe avait conseillé d'augmenter le SMIC. Ça n'avait pas été suivi à l'époque. Et la dernière fois que le SMIC a été augmenté de façon non automatique, avec ce qu'on appelle le fameux coup de pouce, eh bien c'était en juillet 2012, au lendemain de l'élection de François Hollande à la présidentielle. Ensuite, parce que le contexte économique ne s'y prête pas, le chômage remonte, les hausses de salaires vont ralentir, hein, elles ne dépasseront pas 2% en 2026, c'est la plus faible hausse depuis 2021. On n'a que très peu d'entreprises qui comptent accroître leurs effectifs l'année prochaine. Hors de question, dans ce contexte, d'augmenter le coût du travail, sachant déjà que la France est dans le top 6 des SMIC les plus élevés du monde et que notre SMIC dépasse la moitié du revenu moyen et que c'est au-delà de ce que recommandent déjà les directives européennes en matière de rémunération raisonnable.
Donc pas de coup de pouce pour le SMIC, durcissement fiscal. Rapidement, certains seraient tentés de dire que le gouvernement n'épargne pas les plus modestes.
Alors, en fait, si, parce que sans ce coup de pouce, le pouvoir d'achat des smicards progressera quand même 1,4% au 1er janvier. Et surtout, si vous ne donnez pas de coup de pouce au SMIC, ça évite de pénaliser en fait les salariés qui sont juste au-dessus du SMIC et qui seraient victimes de cet écrasement de la pyramide des salaires.
Merci Emmanuel. On en débattra d'ailleurs tout à l'heure avec Laurent Neumann. Faut-il augmenter le SMIC à 8h45? Restez avec nous à la une du journal de 7h30 quand une cyberattaque mène à des cambriolages. Après le piratage des données de la Fédération française de tir, le parquet confirme que certaines adresses volées ont servi à cibler des domiciles pour y dérober des armes.
La fin d'une attente de 3 ans pour les fans. La dernière saison de la série événement Stranger Things, la série de Netflix, a été mise en ligne cette nuit. Enfin, seulement les premiers épisodes. Alix les a vus, elle nous dira ce qu'elle en a pensé.
7h30, très bon début de journée avec BFM Première. On est ravis de vous accueillir avec Dominique et toute l'équipe. À la une de l'actualité ce matin, les tireurs sportifs dans le viseur des cambrioleurs. Le parquet confirme que plusieurs vols d'armes ont été commis après le piratage des données de membres et d'anciens membres de la Fédération française de tir. 1 million de personnes sont concernées.
L'actualité ce matin, c'est aussi Hong Kong et ce brasier géant. Les pompiers mènent depuis hier une bataille infernale pour venir au bout des flammes qui ont englouti plusieurs gratte-ciels. Il y a au moins 44 morts et des centaines de disparus.
La France repense sa défense. Emmanuel Macron présente ce matin son projet de service militaire volontaire. Et en parallèle, l'armée mise sur des technologies de pointe. Thomas Herman nous fera découvrir les innovations de demain.
Et puis la fin d'une attente interminable de 3 ans pour les fans. La dernière saison de la série événement Stranger Things a été mise en ligne cette nuit sur Netflix. Enfin, seulement les premiers épisodes. Alix nous dira ce qu'elle en a pensé.
Quand une cyberattaque se traduit dans le monde réel par des cambriolages, 1 million de membres ou d'anciens membres de la Fédération française de tir ont été victimes d'un vol massif de données.
Oui, numéro de licence, état civil, mais aussi adresse postale. Le parquet confirme que certaines adresses ont été utilisées pour organiser des cambriolages visant à dérober ses armes. Milan Argelas, Kevin Elias et Camille Fournier.
Adresse postale, état civil ou numéro de téléphone, les données personnelles d'1 million d'actuels ou anciens adhérents ont été piratées en octobre dernier. De quoi inquiéter ces adhérents à des clubs de tir que nous avons rencontrés.
J'ai reçu un email de la Fédération française de tir qui donc nous a prévenu avec un long email en détail de ce qui s'était passé. C'est pas en tout cas agréable de savoir que ces données qui traînent.
Aujourd'hui, c'est compliqué de considérer que nos données confidentielles sont vraiment confidentielles.
Ces informations censées être confidentielles sont à présent mises en vente illégalement en ligne. La fédération assure que ni la profession ni le club de rattachement ne figurent dans le fichier. Cette intrusion informatique pourrait tout de même représenter un risque.
On est dans une situation où sur le web ou sur le dark web, on a une gigantesque base de données de Français qui potentiellement disposent d'armes à feu. Donc c'est une situation qui est particulièrement sensible, ce qu'a également confirmé la justice française, puisque les cambriolages se sont multipliés, notamment chez des adhérents.
Point commun de ces cambriolages, de faux policiers et gendarmes assurent venir contrôler les armes directement au domicile. La fédération appelle à la prudence.
La police, la gendarmerie ou la douane ne vous appellera jamais et ne viendra jamais spontanément chez vous pour récupérer vos armes.
L'enquête a été confiée à la brigade de lutte contre la cybercriminalité.
L'actualité ce matin nous amène aussi à Hong Kong où le combat contre les flammes se poursuit. Les pompiers tentent sans relâche depuis plus de 24 heures de venir à bout des brasiers qui ont totalement embrasé. Regardez, un immense complexe résidentiel.
Ouais, qui a été dévoré par les flammes depuis hier et les secours ont beaucoup de difficultés à intervenir. Il y a certains immeubles qui ne sont toujours pas accessibles. On déplore déjà 44 morts et les autorités craignent un bilan bien plus lourd encore. Bettina de Guglielmo.
Ces immeubles d'habitation d'une trentaine d'étages sont devenus un véritable brasier. L'incendie s'est déclaré hier après-midi au nord de Hong Kong, dans ce complexe de 8 immeubles abritant au total quelques 2000 appartements. Ces tours en rénovation sont recouvertes d'échafaudages en bambou, technique ancestrale encore utilisée à Hong Kong. L'incendie se propage d'immeuble en immeuble. J'habite dans le bloc 2, donc j'ai vu le feu se propager du bloc 6 au bloc 5. C'est terrible pour nous, je ne sais pas quoi faire. À la nuit tombée, les images sont apocalyptiques. Des centaines de logements sont dévorés par les flammes. Dans les rues du quartier, la solidarité s'installe. Plus de 900 personnes ont été accueillies dans des abris provisoires.
N'importe qui aurait le cœur brisé. C'est vraiment déchirant. Je ne pense pas que Hong Kong ait déjà connu un incendie pareil. C'est vraiment choquant.
Je me sens très perturbé, j'ai le cœur brisé. Si ces filets sur les échafaudages avaient été ignifugés, cela ne serait pas arrivé.
Cette nuit, 3 personnes ont été interpellées, soupçonnées d'homicide involontaire. Nous avons trouvé du polystyrène installé à l'extérieur des fenêtres à chaque étage et tout le monde sait que ce matériau est inflammable. Il pourrait être l'une des causes de l'incendie, de sa propagation rapide. La police a des raisons de croire que les responsables de l'entreprise concernée ont fait preuve de négligence grave. Au lever du jour, les pompiers combattaient toujours l'incendie, moins intense mais toujours actif. Plus de 200 personnes sont toujours portées disparues.
Allez, on revient en France, on va parler épargne à présent. Alors pas votre épargne, l'épargne de vos enfants. Le montant moyen détenu par un mineur, une petite idée?
Oui, je dirais 12 000 euros.
12 000 euros, 1000. Non mais qu'est-ce que vous racontez? Dans les moyens.
Pardon, je croyais le plafond, pardon.
Ils ont de la chance, les enfants d'Arthur. Hein, je vous dis, 1300 euros en moyenne. Mais c'est une moyenne.
Peut-être dans certaines familles, 12 000 euros.
Je souhaite d'ailleurs à tous les Français d'avoir
C'est la famille d'Arthur qui fait monter le seuil.
Le plafond, quel est-il?
Le plafond, ah bah
le plafond il doit être très haut.
Très très haut, non, j'imagine.
Bah, livret, c'est 12 000.
Ah, c'est 12 000 euros pour
le livret et le livret jeune, voilà, c'est ça.
Ok, parfait. Donc 1300 euros, ça c'est le montant moyen de l'épargne détenue par un mineur en France. Mais forcément, quand on parle de moyenne, ce sont souvent des chiffres en trompe-l'œil parce qu'il y a de fortes disparités. Une étude de l'Institut national d'études démographiques, l'INED, montre qu'en fait le destin financier, vous allez le voir, se joue souvent dès le berceau. Saskia Juin et Dubinsky, Valentine Rib avec Blandine Dalena. Oui.
En France, plus d'un enfant sur deux, 55%, dispose d'un livret d'épargne.
Ils ont un compte chacun, donc on met depuis leur naissance en fait, donc même les papy-mamies ou les parents-marraines.
Ils n'ont pas un énorme pactole, mais ça leur permettra de démarrer.
Mais ce chiffre veut aussi dire que près de la moitié des enfants français ne disposent d'aucune épargne.
On aimerait beaucoup mettre de côté pour nos enfants, mais c'est pas possible.
Comme le montre un rapport de l'Institut National d'Études Démographiques, les inégalités sociales se créent dès l'enfance. De par l'existence ou non d'un livret, mais aussi du montant qu'il y a dessus, puisque 10% des enfants concentrent 74% de l'épargne des mineurs.
Les enfants issus de milieux les plus modestes, on a à peu près 75% qui ont moins de 500 euros d'épargne. Chez les familles les plus riches, on a déjà plus de 10% des enfants issus de milieux de familles riches qui disposent de plus de 20 000 euros d'épargne. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 20 000 euros d'épargne, c'est à peu près l'épargne d'un ménage modeste.
Le montant de l'épargne dépend aussi de la taille de la fratrie. Un enfant unique détient en moyenne 3 112 euros contre 1 338 euros pour ceux qui sont issus d'une famille de 4 enfants ou plus.
À quoi ressemblera le nouveau service national voulu par Emmanuel Macron? Le chef de l'État doit présenter son projet ce matin à Vars dans l'Isère.
On ne connaît pas encore le nom, mais selon nos informations, la piste privilégiée serait celle d'un engagement volontaire de 10 mois ouvert aux jeunes majeurs, femmes et hommes, avec une rémunération d'environ 950 euros par mois, annonce à suivre en direct à partir de 11h15 lors de notre édition spéciale. L'armée qui recrute et qui renforce aussi ses équipements.
Oui, direction Porte de Versailles ce matin. On va retrouver sur place Thomas Armand, qui est au Forum Innovation Défense, donc à la découverte des technologies de demain. Et vous êtes tombé, Thomas, sur plusieurs spécimens de robots assez fascinants.
Oui, et on vous parle ce matin, regardez, de ces petits objets terrestres. Alors l'idée, en fait, c'est d'aller en amont des soldats pour faire notamment de la reconnaissance sur des terrains difficiles, pour eh bien s'assurer que le climat soit favorable pour les militaires, par exemple, déployés sur une opération. Bonjour. Mais justement, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? C'est quoi ces gros robots avec des chenilles, là, par exemple?
Ce que vous voyez surtout ici, vous êtes au sein d'un quartier qu'on a appelé expérimentation. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'innovation de défense, il faut accélérer. Et une manière d'accélérer, c'est de rapprocher les utilisateurs des industriels. Et pour ça, il faut expérimenter au plus vite les solutions.
Et concrètement, ces innovations, elles servent à quoi au quotidien sur des terres d'opération?
Concrètement, drone, robot, je pense que ça parle à tout le monde. Et en fait, il faut savoir que c'est pas si simple. Et faire cohabiter notamment, faire utiliser drone et robot à des opérationnels, il y a un problème de charge cognitive. Et pour ça, il faut expérimenter sur le terrain l'apport que vont avoir ces solutions. C'est ce qu'on fait avec ces objets dans des expérimentations réelles, des scénarios réels, où on fait coopérer ensemble des robots terrestres, des drones aériens pour faire des missions d'attaque, des missions défensives, et ainsi voir les limitations et voir également faire progresser.
Merci beaucoup. Message entendu donc ce matin pour eh bien faciliter donc l'utilisation de ces petits objets quand même que l'on retrouve dans notre quotidien, en version améliorée militaire bien sûr. Une centaine d'innovations ici à retrouver. C'est ouvert au public d'ailleurs ce samedi, Porte de Versailles, donc Paris 15e arrondissement. Vous avez par exemple des nouvelles tenues des militaires ou encore un gilet pare-balles de la gendarmerie.
Ça, bon, c'est passionnant. Merci Thomas pour la visite. Et merci à Vincent Serron qui vous accompagne. On va partir au cimetière de Montmartre à présent, bientôt 30 ans qu'elle trône, Dalida, enfin à Montmartre, sur la place. Voilà, la place qui porte son nom.
Ah bah oui.
Voilà, vous savez de quoi on parle, Dalida, ou plutôt son buste en bronze, oui, que des élus écologistes voudraient déplacer.
Et pourquoi? Ben pour ça, justement, regardez, pour éviter que des touristes ne viennent poser leurs mains sur sa poitrine. Il paraît que ça porte bonheur en amour. La polémique a pris une telle ampleur qu'Orlando, le frère de la chanteuse, a même dû intervenir. Valentine Ribes avec Blandine Dalena.
Certains y voient une tradition qui porte bonheur et l'assume.
Je trouve qu'il faut respecter les traditions, lui toucher les seins. C'est un acte, oui, d'amour et de mémoire.
Mais pour d'autres, il s'agit d'un geste inapproprié.
C'est pas une belle preuve de considération pour la femme, pour le corps de la femme. On peut aussi lui toucher les cheveux. Enfin, je vois pas pourquoi on lui toucherait spécifiquement la poitrine.
Même si c'est une statue, je trouve cela irrespectueux.
Pour certains élus écologistes parisiens, c'est un geste sexiste. Ils réclament donc un dispositif de protection autour de la statue, comme un socle plus élevé, ou l'installation de panneaux pédagogiques pour garantir l'intégrité de l'œuvre.
Même si c'est un buste, on peut aussi faire évoluer les choses. On n'est pas figé dans le temps. Il y a un moment, il faut aussi que notre rapport au patrimoine, il évolue avec son temps. Nous pensons qu'il y a aussi des signaux à envoyer et le signal qui est envoyé aujourd'hui sur le buste de Dalida n'est plus le bon.
Dans un communiqué, Orlando, le frère de Dalida, affirme que cette polémique est ridicule.
Il faut le prendre avec humour et un certain recul, car il ne faut pas perdre de vue que cela reste avant tout une statue. Il faut arrêter de vouloir tout interdire, mais chacun a le droit à son opinion.
Les élus écologistes pointent aussi du doigt la dégradation de la statue. À force d'être touché, le buste de bronze s'est progressivement usé au niveau de la poitrine.
Allez, vous restez avec nous dans le journal de 8h. On évoquera cette nouvelle enquête de l'association L214 qui dénonce des maltraitances dans deux élevages de porcs bretons. Les paquets de jambon mettaient pourtant en avant la qualité du produit et le bien-être animal. Restez avec nous.
Merci de passer cette matinée avec BFM Première. On est ravis de vous accueillir autour de la table. L'édito politique d'Arthur Berda. C'est un petit peu les montagnes russes émotionnelles pour vous. Absolument. Arthur, alors hier, vous étiez sur un petit nuage hier parce que le Sénat avait adopté un budget de la Sécu qui était conforme à vos attentes. Et alors ce matin, bah ça y est, vous êtes de nouveau chafouin.
Bah oui, parce que alors tous ceux qui connaissent Sébastien Lecornu savent que le Premier ministre est un imitateur hors pair. Mais alors, personne, et surtout pas moi, n'aurait imaginé qu'il utiliserait ce talent pour singer les pires heures du robespierrisme et du mitterrandisme. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit, hein, avec la dernière trouvaille des socialistes baptisée « emprunt forcé pour les plus aisés ». Ça rime, en fait. Non content d'avoir essayé sans succès d'imposer la taxe Zuckmann par la grande porte, voilà que le PS revient par la fenêtre avec un nouvel impôt sur, vous savez, les riches, encore eux, toujours eux. Alors cette fois, comme à chaque fois, il se trouvera des belles âmes pour nous expliquer avec toutes les raisons du monde que ça n'est pas si grave. On nous dira que ça n'est pas vraiment de la fiscalité, mais qu'il s'agit simplement d'un emprunt pour quelques années et que l'argent sera rendu ensuite. Sauf qu'être obligé de prêter de l'argent à quelqu'un sans que cela ne rapporte rien à l'issue, ça s'appelle de la confiscation. Et être obligé de prêter de l'argent à un État qui croule sous les dettes et les déficits comme la France, alors là, ça s'appelle de l'inconséquence. Bref, on ne sait pas pour l'instant qui sera exactement concerné, ni quel sera précisément le montant envisagé, mais il n'y a même pas besoin d'en arriver là pour savoir que c'est une mauvaise idée et que le gouvernement aurait tort de regarder cette proposition avec bienveillance, comme la porte-parole du gouvernement a cru bon de le dire hier.
Oui, sauf que si c'est la clé pour obtenir un compromis, ça vaut peut-être le coup d'être tenté, non ?
Alors non, parce que d'abord, on n'est pas obligé d'adhérer à l'idée qu'il faudrait tout accepter au nom de la fameuse stabilité. Ensuite, parce qu'on n'est pas obligé de considérer que le PS serait le seul interlocuteur ou le seul partenaire avec qui il faudrait travailler. Et enfin, parce que quand bien même on s'y résoudrait, ce qui semble être le cas au sommet de l'État, rien n'indique que le Parti Socialiste s'arrêtera en si bon chemin. Au contraire, depuis la renomination de Sébastien Lecornu à Matignon début octobre, il n'y a guère que le Premier ministre qui fait des pas vers sa gauche, des pas chassés, des grandes enjambées même, dont Olivier Faure et ses amis profitent pour le faire danser. Il faut dire que la situation est assez confortable pour eux, sans même devoir aller se salir les mains à la table d'un Conseil des ministres présidé par Emmanuel Macron. Leur programme est appliqué dans sa quasi-totalité. Alors pourquoi s'embêter ?
Ils vous mènent la vie dure, hein, ces socialistes.
Eh oui. Mais pour eux, ils voient la vie en rose.
Merci Arthur.
Ce sera l'une des images, l'un des événements du jour. Emmanuel Macron attendu aujourd'hui auprès des armées à Vars, en Isère, François, où il devrait en dire un peu plus sur l'effort demandé au pays pour se préparer aux menaces. Ça veut dire quoi ? Que notre armée, finalement, aujourd'hui, elle n'est pas à la hauteur des enjeux, François ?
C'est-à-dire que depuis 2022, vous savez qu'on parle de guerre de haute intensité. Ça veut dire quoi, haute intensité ? Ça veut dire entre deux puissances industrielles et technologiques très fortes, avec des capacités de destruction considérables et des éventualités de pertes très importantes. Et donc, typiquement, bah oui, la Russie et la France, pourquoi pas ? Emmanuel Macron est le premier chef d'État depuis 1989, depuis la chute du mur de Berlin, à avoir considérablement, c'est-à-dire pratiquement doublé le budget de nos armées en moins de 10 ans. Mais écoutez ce qu'il disait le 13 juillet dernier, à la veille du défilé du 14 juillet, de la fête nationale aux militaires.
Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant.
Alors, la France a toujours eu un modèle d'armée extrêmement performant. C'est ce qu'on appelle une force interarmes projetable n'importe où dans le monde, avec une très grande capacité d'exécution et avec aussi beaucoup d'expérience, d'expertise même. On l'a vu en Afrique, au Levant, en Afghanistan. Avec la menace russe, on change totalement de dimension. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un modèle de guerre tranché, genre 14-18, 39-45, avec une guerre aérienne à la vitesse des missiles hypersoniques et en même temps guerre du futur, le tout avec un coût humain énorme. La Russie perd au minimum 1000 hommes par semaine depuis le début du conflit. Nous, au Sahel, c'est 50 en 10 ans. Donc, on n'est pas du tout dans le même genre de proportions. Et donc, c'est ce qui explique la façon dont Emmanuel Macron parle de la masse. Écoute, regardez ce qu'il dit. Il dit, on a besoin aujourd'hui des armées solides, mais il faut durcir le modèle, gagner en masse et donc accélérer les efforts sur les réserves. C'est exactement ce qui va se passer cet après-midi à Vars sur l'idée du service national volontaire.
Mais est-ce que ça importe de savoir ce qu'on vaut tout seul alors qu'on combat de plus en plus en coalition ?
C'est tout à fait juste. C'est vrai qu'on ne combat plus seul aujourd'hui. On est soit avec les Européens, soit avec l'OTAN, soit dans des formats multinationaux, soit avec les casques bleus. Mais tout de même, il nous faut pour nous-mêmes et pour le service des autres, eh bien, il faut effectivement avoir davantage de moyens. Regardez aujourd'hui ce qu'il nous manque cruellement. Et c'est pour ça que les budgets de la défense doivent continuer à augmenter sur les munitions téléopérées, c'est-à-dire les drones, sur les armes de saturation, les missiles, la défense antiaérienne, la guerre électronique, les capacités spatiales, parce que ça aussi, ça compte. Et peut-être aussi en mer, le deuxième porte-avions, est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on n'en parle pas ? Tous ces sujets-là, c'est pour les 10 à 15 années à venir. Et donc, oui, il nous faut cette armée-là pour pouvoir se préparer éventuellement au pire.
Et Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre de la Défense, sera l'invité à 8h30 du face-à-face avec Apolline de Malherbe.
Il y a beaucoup de réveils qui ont sonné cette nuit à 2h du matin. Pourquoi ? Il s'est passé un petit événement. Indice. Vous avez reconnu ?
Stranger Things.
Eh oui, ah ouais. Ben, ça y est.
Avec l'accent.
Ça y est, avec l'accent. C'est la fin de Stranger Things, oui. L'ultime, la dernière saison, la cinquième, a donc été mise en ligne cette nuit à 2h du matin.
À 2h du matin en France, oui. Et alors, pour vous donner un peu une ampleur de ce phénomène, cette nuit aux États-Unis, le serveur Netflix a planté à cause d'un trop grand nombre de connexions. Alors, c'est dommage parce que ces épisodes sont très longs. Le premier épisode dure 1h08. Alors à ce niveau-là, c'est même plus un épisode, c'est carrément un long métrage. Mais de toute façon, c'est l'idée. Les créateurs, les frères Duffer, voulaient des adieux spectaculaires. Netflix, d'ailleurs, leur a donné les moyens. On parle de 60 millions de dollars de budget par épisode. Alors sans plus attendre, oui, c'est énorme. Sans plus attendre, on vous emmène pour une dernière plongée donc dans le monde à l'envers, dans les rues de Dawkins. Et un dernier au revoir à Max, Eleven, Mike, Dustin et toute la bande.
Ce qu'on a vécu, cette chose, elle nous lie tous. Pour toujours.
Alors, vous l'avez entendu dans l'extrait, l'acteur Charlie Heaton dit cette chose nous unit pour toujours. Alors, c'est son personnage, Jonathan, qui parle, mais ça résonne aussi, évidemment, pour les acteurs. C'est aussi la fin pour eux, une aventure qui a quand même duré 10 ans. Jean-Marie Marchaud a pu en discuter avec eux.
Oui, ça va être un grand changement. Ça a été très spécial de grandir de cette manière.
C'est devenu une famille. Il y a toujours eu beaucoup de confiance. C'est une belle manière d'être éduqué et de grandir. Je repense à mon premier jour de tournage et à comment j'étais le tout dernier jour. C'était tellement différent. C'était il y a 10 ans, quoi.
Alors, c'est un adieu qui se fera quand même en douceur, je vous rassure, ou pas. En fait, il y aura 3 vagues. Donc, cette nuit, les 4 premiers épisodes sont sortis. Le 26 décembre, cadeau de Noël, il y aura 3 autres nouveaux épisodes. Et puis, le grand final, ce sera le 1er janvier, un épisode qui devrait durer plus de 2 heures.
Bon, et parfois, on dit que c'est terminé, et puis finalement, on a le droit à une nouvelle série ou autre chose. Est-ce que là, vraiment, ce sera la fin définitive ?
Oui, je suis désolée de vous l'apprendre, mais oui, les créateurs ont été plus que formels. C'est la fin définitive, aucune suite possible.
Avec donc, Kate sortez. Bush.
Alors ça, c'était la saison 4, effectivement. C'est une chanson qui avait été remise au goût du jour. Donc, une chanson qui est sortie en 1985, qui avait été remise au goût du jour, parce que c'est une série vraiment qui a influencé la pop culture, c'est devenu tellement culte. Et si cette série est aussi parfaite, justement, c'est parce qu'elle a réussi à prendre tous les codes des années 80 avec Kate Bush, par exemple. Donc ça parle autant aux ados qu'aux adultes, et c'est pour ça qu'on adore. Mais voilà, j'ai quand même une bonne nouvelle pour finir, puisque c'est la fin, mais il y aura l'année prochaine une série animée, là aussi créée par les frères Duffer, qui est donc attendue sur Netflix.
C'est pas l'histoire à la fin, alors.
Alors l'histoire se passe entre la saison 2 et 3, c'est une série animée.
C'est un dessin animé.
Okay. Oui, mais c'est d'accord. La fin, là, la saison 5.
D'accord. Voilà. Mais il y a quand même une petite suite dessin animé. En tout cas, donc cette dernière saison de Netflix en trois vagues. Quatre premiers épisodes. qui sont diffusés dès à présent sur Netflix. Merci beaucoup, Alix.
Vos factures de chauffage augmentent ? C'était votre rendez-vous avec Fleuron Industrie, grossiste en isolation thermique extérieure pour les particuliers. Fleuronindustrie.com.
C'était votre programme avec Fortunéo, numéro 1 au classement des banques les moins chères. Fortunéo, j'aime ma banque.
Ce n'est pas une impression, les températures ont encore un peu chuté ce matin, la météo de Kevin.
Vos factures de chauffage augmentent ? La météo avec Fleuron Industrie, grossiste en isolation thermique extérieure pour les particuliers. Fleuronindustrie.com.
La météo avec MyVariation. Des brosses à dents à technologie sonique recommandées par les dentistes, disponibles en pharmacie et sur MyVariation.com.
La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous ? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe.
Vous n'êtes pas encore sorti de chez vous à Aix-en-Provence. Moins 2 degrés actuellement au thermomètre. Des gelées généralisées de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le nord-est, avec des nuages généralisés aussi. Ce sera beaucoup plus beau en revanche des Pyrénées en direction des Alpes. Attention par contre en Corse, 10 à 20 cm supplémentaires des 900 mètres, des 1000 mètres pour la montagne de Corse aujourd'hui. Cette perturbation n'ira pas plus loin grâce au flux. Elle ne pourra pas traverser toute la France. Les températures donc très froides ce matin, douces par endroits cet après-midi, mais uniquement en direction de la Méditerranée.
Vos factures de chauffage augmentent ? C'était la météo avec Fleuron Industrie, grossiste en isolation thermique extérieure pour les particuliers. Fleuronindustrie.com.
C'était la météo avec MyVariation. Des brosses à dents à technologie sonique recommandées par les dentistes, disponibles en pharmacie et sur MyVariation.com.
C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ?
Il est 8h, merci de nous rejoindre sur BFM TV. On est ravis avec Perrine de vous accueillir pour ce grand journal de 8h. À la une, un engagement de 10 mois, ouvert à tous, hommes, femmes, à partir de 18 ans. Emmanuel Macron présentera en fin de matinée les contours du nouveau service militaire. Il sera volontaire cette fois. Parole dans un instant de ceux qui ont vécu l'ancienne version. Et puis à 8h30, l'ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, sera l'invité du face-à-face.
L'actualité, c'est aussi cette fusillade. Il y a quelques heures, tout près de la Maison-Blanche, un homme de nationalité afghane a ouvert le feu sur deux membres de la garde nationale en patrouille. Les toutes dernières informations à suivre.
Les paquets de jambon mettaient en avant la qualité du produit et le bien-être animal. Deux élevages bretons sont pourtant visés par une nouvelle enquête de l'association L214 qui dénonce insalubrité et maltraitance. L'ancienne Carrefour qui commercialise ces produits est également pointée du doigt.
Et puis un anniversaire très particulier aujourd'hui. Il y a 20 ans, une petite chaîne faisait son apparition dans le paysage audiovisuel. Son nom, BFM TV. En deux décennies, votre chaîne aura révolutionné la manière de couvrir l'information. Soirée spéciale dès 21h sur notre antenne.
Ce sera à coup sûr, Perrine, l'une des images de la journée. Emmanuel Macron est attendu en Isère sur la base militaire de Vars pour préciser aujourd'hui les contours de son nouveau service militaire volontaire.
Près de 3 Français sur 4 d'ailleurs sont favorables à cette nouvelle façon de s'engager. C'est ce qui ressort d'un sondage et là pour BFM TV. Alors, qu'en pensent ceux qui ont déjà effectué leur service militaire, mais le vrai cette fois-ci, Philippine David et Milan Argelas sont allés leur poser la question.
Eh bien, je suis là. Franck et Frédéric ont tous les deux effectué leur service militaire à 23 ans.
J'ai toujours ce costume, bien entendu.
C'est vrai ?
Tiens, Frédéric, je vois.
Non !
Bah, bien sûr que si.
Génial ! En voyant ces photos, Franck se souvient de sa première fois avec une arme. C'était à Clermont-Ferrand, au 92e régiment d'infanterie.
Voilà, on va te donner une arme de guerre. La cible était un soviétique. Parce qu'en fait, l'ennemi était à l'est.
la France se préparait à un conflit qui viendrait de l'Est.
Aujourd'hui, 67% des Français jugent improbable une attaque militaire russe en France dans les années à venir. La menace soviétique était à l'époque présente dans la tête de ses deux amis. Frédéric tire, lui, un autre enseignement de cette période.
J'avais passé mon enfance, mes études à Paris dans le 7e arrondissement, donc dans un milieu bourgeois. Et pour la première fois de ma vie, j'ai une représentation de la société que je ne connaissais pas avant. Avec des pauvres, des riches, des qui n'ont pas fait d'études, des qui ont fait des études.
C'est quelque chose qui permettait de faire nation, c'est-à-dire de vivre ensemble.
Pour Philippe et François, c'était il y a 40 ans.
Ouais, je ne regrette pas.
Mais cette année reste gravée dans leur mémoire.
On se rend compte que de souffrir ensemble, d'avoir des contraintes assez fortes, forcément, ça augmente la solidarité.
Je pense que c'est un passage de... Un passage vers l'âge adulte. Et puis moi, j'ai donc eu la chance d'être officier, et moi, ça m'a appris à gérer des gens, ce que j'ai fait quand même pendant une trentaine d'années après.
73% des Français se disent aujourd'hui favorables à la création d'un service militaire volontaire.
Alors, à quoi ressemblera ce futur service militaire selon nos informations? Il sera ouvert aux jeunes à partir de 18 ans, les hommes comme les femmes. 10 mois, c'est la durée de cet engagement qui, on le rappelle, sera volontaire, rémunéré 950 € par mois. Et puis, élément important pour les étudiants qui mettraient en pause leurs études pour pouvoir s'engager, eh bien, une année équivaudra à 60 crédits. C'est l'équivalent des crédits obtenus pendant une année universitaire.
Et on suivra, Dominique, ces annonces tout à l'heure en 11h15 lors de notre édition spéciale sur BFM TV. L'information de la nuit, c'est cette fusillade à Washington, tout près de la Maison Blanche. Un tireur a ouvert le feu sur deux soldats, la garde nationale, qui était en patrouille. Les deux hommes sont toujours ce matin dans un état critique. Le suspect, lui, a été interpellé. Il est également blessé. Antoine Fernandez.
Seulement quelques minutes après la fusillade, les autorités locales prennent en charge deux militaires de la garde nationale américaine. Les deux hommes sont au sol, victimes de tirs ciblés en plein cœur de Washington et à seulement quelques mètres de la Maison Blanche. Vers 14h15 heure locale, un homme armé arrive à l'angle d'une rue de la capitale américaine, puis se dirige vers les deux militaires alors en patrouille. Plusieurs coups sont tirés, l'assaillant est rapidement maîtrisé par d'autres gardes nationaux. Dans la nuit, Donald Trump décrit le profil du tireur.
L'animal qui a perpétré cet atroce acte paiera le prix le plus élevé possible. Le suspect en détention est un étranger entré dans notre pays en provenance d'Afghanistan, un véritable enfer sur Terre, en septembre 2021.
Le suspect est un homme de 29 ans. Selon les médias américains, il avait fait une demande d'asile accordée par l'administration Trump en avril 2025. L'homme avait travaillé avec l'armée américaine et la CIA en Afghanistan avant d'être exfiltré vers les États-Unis en 2021. Les deux militaires touchés sont grièvement blessés, toujours dans un état critique. Ces témoins de la fusillade racontent.
Le membre de la garde nationale avait la tête couverte de sang. Il y avait plein de monde autour de lui et puis on l'a fait monter dans l'ambulance.
Ces derniers mois, c'est sur décision de Donald Trump que les militaires étaient déployés dans la capitale. L'administration du président annonce renforcer leur présence en déployant 500 soldats supplémentaires. Toutes les demandes d'immigration des ressortissants afghans sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.
L'actualité, Perrine, nous emmène aussi ce matin à Hong Kong. Hong Kong, après ce tragique incendie qui a ravagé tout un complexe résidentiel, 7 immeubles au total ont pris feu. Il y a un bilan de 55 morts, pour l'instant 55 morts et des centaines de résidents toujours portés disparus.
Et les pompiers qui continuent de lutter contre les flammes, il y a 3 bâtiments qui sont toujours en train de brûler, 4 où le feu a été maîtrisé. Faut-il y voir ce matin un pas supplémentaire vers une paix en Ukraine? Pour la première fois cette nuit, Moscou évoque un processus sérieux pour qualifier les efforts diplomatiques américains. Dans le même temps, Vladimir Poutine était hier au Kyrgyzstan pour une halte culturelle, comme si de rien n'était, des images qui tranchent avec la réalité du terrain.
Oui, contraste saisissant entre l'image de Vladimir Poutine et ce qui se passe sur le terrain. On va rejoindre justement à Kiev notre envoyé spécial Clémence Dibou, alors que l'Ukraine entre, Clémence, dans un quatrième, s'apprête à entrer dans un quatrième hiver de guerre. Y a-t-il tout de même ce matin un sentiment d'espoir peut-être sur une issue du conflit?
Il y a plutôt une volonté de montrer la réalité de la guerre pour les Ukrainiens. Regardez ce que vous montre Valentin Rivollier. C'est un Shahed, c'est un drone russe qui terrorise la population ukrainienne. Il a été décidé d'en mettre un sur cette place principale. On peut venir le voir, le toucher. On se rend compte à quel point c'est d'une fabrication assez simple, des matériaux assez simples, on peut même, vous voyez, les manipuler pour, c'est ça, eh bien, que reçoivent les Ukrainiens tous les soirs et qui donc terrorisent la population. Et c'est une volonté du gouvernement ukrainien de venir montrer ici ce qu'il en est de la réalité. Il y a beaucoup d'Ukrainiens, vous le voyez, qui viennent se prendre en photo. Autre détail aussi, au milieu des chars qui sont exposés ici, là, eh bien, il y a une nouveauté, c'est une moissonneuse-batteuse. La volonté derrière ça du gouvernement ukrainien, eh bien, c'est de montrer que ce sont les infrastructures civiles qui sont touchées. La nourriture, les céréales, le blé ukrainien est très important parce que c'est l'export pour le monde entier. C'est aussi touché par l'armée russe. Voilà le message ce matin ici. Donc, cela veut dire que pour les Ukrainiens, eh bien, ce plan de paix, cet espoir suscité par les avancées côté russe, on n'y croit pas vraiment et on le montre.
Merci beaucoup Clémence Dibout en direct de Kiev. Retour en France avec ce chiffre. Ce matin, regardez ce chiffre qui concerne la consommation d'alcool. Elle continue de baisser en France. Les ventes ont baissé de quasiment 6% l'an dernier par rapport à l'année précédente.
Ouais, alors vous allez me dire que c'est une bonne nouvelle en matière de santé, mais en fait ça cache des indicateurs qui sont moins rassurants. Si les Français, surtout les jeunes, boivent moins souvent, ils le font. Et quand ils le font, c'est plus souvent de manière excessive. Angie Loata, Olivier Saint-Paul et Pierre-Olivier Nantan.
Une bière lors d'un apéro entre amis, un verre de vin pour accompagner le repas, des petits plaisirs que ces Français assurent s'octroyer avec modération.
Je bois un petit peu de vin, mais toujours en mangeant, je veux dire dans les traditions.
Le week-end, comme ça, des fois sur semaine, un petit verre de vin.
En France, la consommation d'alcool a nettement diminué ces derniers mois. Près de 6% de baisse en 2024, principalement dû au recul des ventes de vin, mais surtout à une consommation moins régulière chez les jeunes.
Les jeunes sont peut-être plus attirés par ce côté festif. C'est plus pour s'alcooliser, pour être dans un état un peu particulier.
Cette tendance, justement, est pointée dans l'étude. Même s'ils boivent moins, un jeune sur cinq a tout de même connu une alcoolisation importante dans le mois. Un phénomène qui n'étonne pas ce thérapeute en addictologie.
On constate qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment de la bière. Les gens ont tendance à consommer moins de manière raisonnable et ils ont tendance à augmenter le nombre de séquences d'alcoolisation excessive.
68% des jeunes de moins de 16 ans disent avoir déjà expérimenté l'alcool.
Allez, restez avec nous à suivre dans le Grand Journal de 8h notre enquête. Enquête de l'association L214 qui dénonce l'insalubrité et la maltraitance dans deux élevages de porcs bretons. Les paquets de jambon mettaient en avant la qualité du produit et du bien-être animal.
2012.
C'est combien de temps, vous, Emmanuel, à BFM ?
Depuis mars 2012.
Mars 2012. Voilà. On a des choses
pour
à raconter.
Préparer l'élection présidentielle.
Et à l'époque, Emmanuel avait la banane.
Je ne l'avais déjà plus depuis longtemps.
C'est une espèce de running gag depuis ce matin, parce qu'on a appris qu'il était très chevelu étant jeune, Emmanuel. On va parler à présent du SMIC, Emmanuel, parce qu'on attend ce rapport aujourd'hui, rapport du groupe d'experts sur le SMIC qu'il remet annuellement. Est-ce qu'il va recommander un vrai coup de pouce ou juste la revalorisation automatique ?
Vous savez que le SMIC, le niveau du SMIC, c'est un sujet éminemment politique en France. Ça a été longtemps un sujet, le principal outil finalement de régulation du pouvoir d'achat. Donc en 2008 a été créé un groupe d'experts pour présenter chaque fin d'année ses recommandations. Est-ce qu'il faut l'augmenter juste le niveau réglementaire ou bien est-ce qu'il faut donner un coup de pouce supplémentaire ? Alors il va donner son avis ce soir à 17h, ce groupe d'experts. Avant de transmettre ses recommandations aux partenaires sociaux qui vont les discuter. Et puis le Premier ministre prendra un décret fixant le niveau du salaire minimum au 1er janvier. Et donc il ne devrait pas y avoir de surprise. En gros, la probabilité que ces experts conseillent un coup de pouce supplémentaire au SMIC est proche de zéro. Et la probabilité que le Premier ministre contrevienne à ce conseil est également proche de zéro. Verdict à 17h ce soir.
Alors pour quelle raison ?
D'abord parce que les experts n'ont recommandé de coup de pouce exceptionnel que très rarement. C'était en 2009 la seule fois où ce groupe d'experts a dit oui, il faut donner un coup de pouce supplémentaire au SMIC. C'était après la grande crise financière des subprimes. Et puis le dernier vrai coup de pouce exceptionnel au SMIC, il faut le rappeler, c'était en juillet 2012 après l'élection de François Hollande. Il y a cette volonté politique, vous savez, de désmicardiser la société française, et vous ne pouvez pas étendre l'échelle des salaires si vous remontez en permanence le niveau de salaire le plus bas. Et puis, le contexte économique ne s'y prête pas non plus. Le chômage remonte, les hausses de salaire ne dépasseront pas 2% en 2026, c'est le plus bas niveau depuis 2021. Il y a de moins en moins d'entreprises qui comptent embaucher, donc hors de question dans ce contexte d'augmenter le coût du travail, sachant que la France est déjà dans le top 6 des SMIC les plus élevés du monde, et que l'Europe nous dit le SMIC est trop élevé à 50% du salaire moyen, c'est mauvais pour les grands équilibres économiques.
Bah, allez dire ça au SMICard, que le SMIC est trop élevé.
Oui.
Donc pas de coup de pouce supplémentaire, durcissement fiscal aussi, le gouvernement Le Cornu qui épargne pas les plus modestes.
Alors en fait, ce qui est paradoxal, c'est que s'il n'y a pas de coup de pouce, d'abord le pouvoir d'achat des SMICards progressera quand même. La simple augmentation mécanique devrait se situer à 1,4%. On le sait parce que la formule de calcul est connue, soit 1 446 € net par mois. Et puis surtout, ça peut paraître paradoxal, mais ne pas augmenter le SMIC, c'est éviter de pénaliser les salariés qui sont juste au-dessus et qui se retrouveraient payés comme des débutants. Augmenter le SMIC, ça fragilise aussi les moins qualifiés. C'est encore plus dur pour eux de trouver du boulot. Et donc, c'est pour ça que ce groupe d'experts devrait recommander la modération.
En attendant les experts et leur verdict à 17h, on en débattra, nous, à 8h45, avec vous et Laurent Neumann, sur cette augmentation, nécessaire ou pas, du SMIC en France. On se retrouve dans un instant pour le face-à-face. L'ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est l'invité d'Apolline de Malherbe, alors qu'Emmanuel Macron doit dévoiler aujourd'hui les contours du futur service militaire.